bienvenue sur Top 5. Alors, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce contenu? C'est pas la séance de l'invité, c'est pas Topcast, c'est complètement autre chose, ce qu'on va vous proposer là. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines, puisqu'il avait été notre invité de la séance de l'invité, et il devait nous parler de son voyage autour du monde. Donc c'est Yann, salut Yann.
Bonjour Flashou.
Bon bah, déjà, content de te revoir, parce qu'on a... On a fêté un petit truc sympa là. On vous donnera pas plus de détails parce que c'est confidentiel défense, bien entendu. Mais voilà, c'était la bonne occasion pour que tu reviennes et puis que tu nous parles de ton voyage parce que voilà, tu nous avais teasé pas mal avec ça et puis rien derrière, pas de réponse, pas de coup de téléphone, rien. C'était terrible, mais t'es revenu donc on va pouvoir parler de ça. Alors Yann, donc t'as fait il y a grosso modo un an un voyage. Assez conséquente de par le monde.
En effet.
Et déjà, la grande question que moi, je me pose avant qu'on introduise ça plus en détail, qu'est-ce qui t'est passé par la tête?
Eh bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis en dernière année en école d'ingénieur. Et donc, pour valider son diplôme d'ingénieur, il faut donc avoir fait un semestre à l'international. Et pour cela, j'ai donc choisi la Corée du Sud. Alors, pour diverses raisons... pour ces légendes au sujet des fameuses chanteuses de K-pop.
D'accord, c'est... toi c'est pas genre, oui, la culture du pays, non, c'est des chanteuses de K-pop.
Ah, attends,
non, mais, au moins, non mais au moins c'est authentique comme truc.
Ah ben on est authentique. Hein.
Ah non mais là je confirme.
On voulait savoir si la connexion en effet dans le métro était meilleure qu'à Paris, ce qui est le cas.
D'accord, donc c'est vraiment le côté geek qui t'a motivé à choisir la Corée.
C'est le côté geek, en effet, aussi du fait que bah, leur recherche aujourd'hui en bah, tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui va être dans le domaine des nouvelles technologies est beaucoup plus poussé qu'en Europe,
d'accord,
on va dire. Et donc c'est pour ça que ça m'a, entre guillemets, aidé à choisir ce pays.
Ok.
Donc partant en Corée du Sud et partant en Asie, donc, je me suis dit, l'Asie c'est vaste. Tout autant que l'Europe, j'avais déjà eu l'occasion de faire un voyage en Europe. Et donc, je me suis dit, quitte à aller en Corée du Sud, autant faire un road trip en Asie, donc cette fois en Asie du Sud-Est, en incluant le Japon dans mon road trip, ce qui a été d'ailleurs mon premier pays, avant de rejoindre la Corée du Sud.
Donc, pour résumer à nos auditeurs, tu as fait vraiment un circuit, alors pas touristique, parce qu'on verra que c'est pas le tourisme au sens premier du terme, quoi.
En effet.
Là, on était plus en pérégrination.
Plutôt, oui.
Ouais, toi, tu nous en parleras en détail. Et donc, tu commences avec le Japon. Alors, moi, j'allais te poser la question tout à l'heure, parce que tu parlais de la technologie, les trucs, les machins. Moi, j'aurais plutôt misé mon pognon sur le Japon.
Oui, en effet, sauf que mon école n'avait pas de partenariat.
D'accord.
Avec le Japon. C'est pour ça.
Ok. Donc, première étape, Japon.
Voilà. Deuxième étape, le Vietnam, où il s'est passé beaucoup de choses et on pourra y revenir plus tard.
J'espère bien.
Par la suite, le Cambodge, la Thaïlande.
Mm-hmm.
Et enfin, le retour, ou plutôt l'arrivée en Corée du Sud.
Oui, parce que j'allais dire, là, ça c'est l'entrée.
Voilà.
Donc on attaque vraiment le plat de résistance, la Corée, au bout de pas mal de temps. Parce que ça a duré combien de temps avant d'arriver en Corée? Il y a eu combien de temps de voyage?
Alors ça m'a pas pris beaucoup de temps, puisque j'avais déjà fait certains de ces pays, mais ça m'a pris un mois.
Ok, donc il y a quand même un mois de pré-voyage.
Un mois de pré-voyage.
Alors, en deux mots, un prévoyage, les gens, soyez pas cons non plus. Ça n'a rien à voir avec prévoyance. Donc, t'arrives en Corée du Sud. Là, évidemment, c'est StarCraft à gogo.
C'est StarCraft et Overwatch, puisque le jeu.
Ah, ça commençait, ouais.
Le jeu du moment, c'était Overwatch. Ça tournait sur absolument toutes les bécanes en cybercafé. Il faut dire que j'ai passé, à mon avis, plus de 100 heures dans les cybercafés de Corée. Puisque, bon. Enfin, techniquement, c'est le cœur, c'est le sport national là-bas.
Et puis, est-ce que c'est l'équivalent un peu des bars chez nous, quoi? Est-ce que c'est un lieu de rencontre ou pas du
tout? Ce n'est pas un lieu de rencontre, même si les cybercafés sont reliés entre eux pour favoriser les échanges entre les différentes personnes.
Ouais.
Mais ce n'est pas vraiment un lieu de rencontre. C'est plus un endroit où on se retrouve avec ses potes pour jouer.
C'est un lieu de rencontre, donc.
Oui, oui.
Non, quand je dis rencontre, c'est pas un lieu pour draguer, mais c'est un lieu de vie.
Oui, c'est un lieu de vie. Ah, c'est totalement un lieu de vie.
Quand tu vas au bar avec tes potes, c'est pas forcément dans l'idée de pécho de la meuf.
Non, mais c'est vrai que techniquement, on pouvait se faire commander de la nourriture, se la faire apporter sur un plateau pendant qu'on était en train de jouer. Ça m'est arrivé souvent que je sois en partie sur Overwatch et qu'on me livre mon hot dog pendant que je suis en train de faire un kill. Ça,
D'accord. Donc... t'es bien, t'es en Corée, tu joues à gogo, et puis, bon, t'es quand même là-bas pour ton cursus.
Oui, en effet.
Donc, je suppose que tu fais ça en parallèle, et donc, ça a duré combien de temps, ça?
Donc, ça a duré 4 mois, j'y ai été de septembre à décembre. Donc,
ok, donc un semestre, quoi.
Un semestre où j'ai pu travailler en intelligence artificielle, en stratégie marketing et dans d'autres domaines d'ingénierie.
Comment ça te la raconte?
Ah, il faut bien,
tu peux, franchement tu peux, c'est un putain de parcours. Donc fin du trip coréen, alors du coup c'était l'heure du retour
et puis je me suis dit, eh ben très bien, la majorité des personnes vont prendre un avion, soit pour partir dans une autre destination, soit pour rentrer en France tout simplement, et puis je me suis dit, ok, bah je vais rentrer en France, mais je vais pas prendre la voie que tout le monde prend. Je vais commencer par faire un petit détour. Donc je suis retourné au Vietnam pendant 2 semaines, ouais. Le temps d'un visa donc. Uh-huh. J'ai ensuite enchaîné avec la Chine, donc pendant 2 semaines aussi.
Ouais.
La Mongolie pendant 1 mois et d'accord. La Russie pendant 1 mois.
Et après t'es revenu.
Et après je suis revenu en France depuis Moscou.
Ok. Et c'est donc là où nous t'avons retrouvé donc pour l'épisode de la séance de l'invité où. Où tu nous avais fait la primeur de ton retour.
Absolument.
Et on t'en remercie. Alors là, tu nous as décrit le voyage, j'ai envie de dire, factuellement, hein, voilà, et les dates, ce qui s'est passé, les endroits, mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est déjà pourquoi le pré-voyage.
Alors le pré-voyage, puisque j'avais envie de découvrir de nouveaux pays, alors il fallait savoir que le Vietnam, j'y étais déjà allé il y a 7 ans, mais tout ce qui était Cambodge, Thaïlande et Japon surtout, la légende du pays du Japon.
Le Japon évidemment c'est la base.
Bah, j'avais envie de mettre des mots et surtout un regard en face de ces pays et de voir est-ce que les légendes sont vraies ou non et est-ce que c'était possible en fait de dépasser en fait ces stéréotypes qu'on a sur ces pays ou bien de les infirmer.
Les infirmer, ouais. Tu penses que tu avais beaucoup de préjugés?
Alors, j'avais beaucoup de préjugés au niveau donc de la Thaïlande lorsque je me suis arrêté à Bangkok et j'avais beaucoup de préjugés au niveau du Japon puisque je me demandais vraiment à quoi ressemblait ce pays et j'ai eu une sacrée surprise en fait en arrivant.
Une bonne surprise et...
Eh bien, bonne, je ne sais pas, mais en tout cas...
C'est toi qui dois savoir.
C'est à vrai dire, je ne sais pas si le fait de rentrer dans un sex shop par hasard est une bonne surprise ou non. Puisque, alors, je vais essayer de
pour moi, raconter. Pour moi, c'est un signe. Vas-y, raconte-moi celle-là parce qu'elle a l'air pas mal.
Il faut quand même savoir, j'étais principalement situé dans la région de Tokyo, à part lorsque je suis allé au Mont Fuji. Mais voilà, dans la région de Tokyo, il faut savoir que il y a très peu de place. C'est une île, je vous le rappelle. Et les bâtiments sont construits en immeubles. Et donc, on commence par entrer dans un immeuble de souvenirs. Il y a 2-3 étages, tout va bien. Et puis, on monte au 4e, 5e, 6e étage et on se retrouve devant un sex shop. Et il m'est arrivé de rentrer plus souvent dans un sex shop par hasard que dans une boutique.
Donc, en fait, le sex shop est parfaitement intégré à la vie de tous les jours ou c'est vraiment le lieu awkward
C'est totalement intégré et il faut savoir aujourd'hui qu'au Japon on a une chute de la natalité d'autant du fait que en fait les adultes ne veulent pas faire d'enfants plus qu'un enfant en fait puisqu'un enfant ça va demander un investissement, ça va demander beaucoup de choses
et de la place
et il faut savoir donc déjà que le Japon est limité en place mais également que le sexe contrairement à l'Europe ou particulièrement en France. Le sexe n'est pas casual, c'est-à-dire qu'en gros,
j'aime beaucoup le...
on ne peut pas, on n'a pas du sexe pour avoir du sexe et du plaisir. Là-bas, c'est vraiment avoir du sexe pour procréer et avoir une descendance.
Mais alors, j'ai une question, votre honneur. Alors là, ce que tu me dis me sidère. Mais le hentai, toute cette profusion de dessins animés avec des petites collégiennes en jupette plissée, on nous aurait menti?
Non, il faut savoir que dans l'un des plus grands sex shops d'Akihabara, qui est donc le quartier geek de Tokyo, j'ai croisé une poupée gonflable de plan A3 avec des petites filles.
Quelle merveille!
Et la légende des maîtres cafés, du hentai, de tout ce qui tourne autour de l'animé, ce ne sont pas des légendes.
Mais alors c'est fou parce que d'un côté on a le côté... entre guillemets pervers, je dis pervers, mais je pense pas que ce soit des déviations et que les mecs soient ouf, mais le côté un peu fantasme et tout, qui est très ludique finalement, et où il y a plein de choses, où c'est hyper, hyper varié, et même nous on trouve ça bizarre. Et ce que tu disais, le casual, donc le, bah, avec un monsieur et une madame, quoi, un papa et une maman, ça, c'est pas tendance. Alors, ça me fait penser, tu vas peut-être me faire le rebond là-dessus. J'avais vu un reportage où ils disaient qu'ils avaient des problèmes pour recruter des acteurs, hein, pas des actrices.
Des acteurs, oui.
Pour des films porno.
Alors, je ne connais plus exactement la proportion, mais il me semble qu'il y a 10 000 actrices porno pour un acteur porno au Japon. Donc, si vous voulez vous lancer dans le porno japonais, je vous conseille d'y aller, puisqu'on demande vraiment beaucoup de personnes.
D'accord. Parce que le truc, c'est qu'il y avait, y a un marché, c'est hyper... j'allais dire tendance, mais enfin, voilà, ça, le biz, il marche, il n'y a pas de problème. Et il y avait ce problème-là, et ce qui faisait que un des acteurs les plus populaires, je sais pas comment on pourrait le dire, mais qui tourne le plus, c'était un mec, il avait quasiment 60 balais ou un truc comme ça, quoi.
Oui, parce qu'il faut savoir que au Japon, en tout cas, et ce qui explique en fait le faible taux de natalité au Japon,
ouais.
Les relations sont basées sur des relations de type social, c'est-à-dire qu'en gros, tu vas avoir un groupe de personnes qui va rencontrer un autre groupe de personnes,
ouais.
Et si des personnes ont des interactions entre ces deux groupes, il faut montrer que on est suffisamment digne d'avoir des,
ouais.
Voilà, des relations intergroupes.
Okay.
Le problème, c'est que aujourd'hui, il est devenu beaucoup plus difficile d'aborder une personne dans la rue, en particulier au Japon, puisque les gens sont très tournés vers leur travail, et que je vous rappelle que avoir du sexe, c'est pour procréer. Donc, le taux de relations sexuelles est très bas.
Et donc, du coup, les enfants, voilà. Encore plus. Ouais. Okay.
Et généralement, les personnes qui ont une trentaine d'années ont une aversion pour le sexe, en fait, au Japon. Et ce n'est pas une légende. C'est pour ça que les gens préfèrent vraiment se masturber plutôt que de rencontrer quelqu'un. Et si tu veux que je rajoute quelque chose à ça,
oh bah vas-y.
Il est normal pour un homme d'aller fréquenter une prostituée.
D'accord.
Pour ne pas désintégrer la relation qu'il pourrait avoir avec sa femme par manque de sexe.
D'accord, donc le côté je vais pas être en chien et je vais pas te faire chier chérie, du coup je vais assouvir mes besoins autre part parce que toi t'as pas envie, c'est totalement, entre guillemets, c'est casual ça.
C'est casual, ça c'est casual.
C'est casual, je vais le dire comme ça, casual. D'accord, ah, putain, c'est ouf ça. Donc le Japon, ouais, embrouille autour de la braguette quoi.
Assez.
D'accord. Alors, allez, la question que tout le monde se pose, qui brûle les lèvres.
C'est parti.
Est-ce que t'as pécho ?
Eh ben, je suis resté très seul au Japon. Hein. Et on va pas se mentir, pour moi, mon objectif de ce voyage, c'était vraiment pas de... Ma réponse est non, puisque comme j'ai pu te le dire, moi, j'ai l'habitude de voyager en solitaire.
Ouais.
Sauf que pour rencontrer des gens, il faut avoir des interactions sociales avec des groupes.
Ouais.
Donc, il aurait fallu s'intégrer avec des groupes, etc. J'ai rencontré des personnes qui étaient en auberge de jeunesse, etc. Mmh. Mais c'est très compliqué, je n'ai quasiment rencontré aucun japonais au Japon. J'en ai rencontré plus au Vietnam qu'au Japon même.
D'accord, donc en fait, socialiser avec des japonais, ça a l'air super challenge.
Alors ça a été un challenge pour moi, pour d'autres ça ne l'a pas été. C'est un pays qui m'a laissé un petit peu sur ma faim, surtout pour le fait que je n'y sois resté qu'une seule semaine, puisque le Japon c'est très cher. Vous pouvez compter, moi j'ai dépensé en tout cas 500 euros pour une semaine.
Ah, quand même.
Donc, voilà.
Sachant que tu parles d'auberge de jeunesse. Hein,
je parle d'auberge de jeunesse et je parle de ne pas manger tous les jours dans un restaurant et de manger...
Ouais, sur le pouce.
Sur le pouce,
tu vas au combini du coin.
Exactement.
D'accord. Alors, les combini, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des petites supérettes ouvertes 24-24 où on peut trouver tout et n'importe quoi. Passe-moi l'expression, c'est l'arabe du coin.
C'est raciste, mais oui.
Ah non, c'est une expression. Ah, je tiens à me porter en faux, monsieur Yann. Sachez qu'ici, nous ne sommes pas du tout portés sur le racisme. On déteste tout le monde à part égal.
Très bien, parce qu'en Asie du Nord, on déteste les Arabes.
Ah bah comme chez nous, dis donc.
Oui, mais alors c'est une relation un petit peu plus bizarre, puisque c'est, ben, je pourrais reprendre le cas du Japon et de la Corée. En fait, ils les détestent pas, mais c'est juste qu'ils sont très curieux de la personne, des personnes arabes. Mm-hmm. Et ils les regardent un petit peu avec de la distance, comme si c'était des bêtes sauvages. C'est
d'accord.
L'impression que j'ai pu avoir.
Okay. Alors, cela dit, dans les rues de Paris, des fois, j'ai eu cette impression aussi. Hein. Tu vois certaines grand-mères qui voient une dame en boubou, Ça leur fait toujours un choc. Hein. Ils ont l'impression d'avoir croisé des bêtes de la forêt.
Bah, c'est un petit peu.
Triste d'ailleurs. Mais
c'est un petit peu l'impression que j'ai eue en Corée du Sud. En tout cas.
D'accord. Donc en fait, il n'y a que des vieilles du 16e en Corée du Sud. C'est ça.
Non, mais c'est très particulier. Il faudra que j'en reparle.
Ah, d'accord. Alors, donc Japon, ok. Haro sur la braguette. Du coup, là-bas, t'as fait que du tourisme.
J'ai fait que du tourisme.
C'est quoi le truc le plus cool que t'aies vu là-bas et où tu t'es dit « Oh putain, le Japon, c'est stylé quand même ».
Eh ben, je pense que c'est le fait d'avoir vu le lever de soleil sur le sommet du Mont Fuji. Alors, il faut savoir que pour le Mont Fuji, donc, j'avais très peu d'informations et je suis parti avec mon sac à dos de 18 kilos. Et que c'était, je vais pas me cacher, hein, c'était la première montagne que je montais. Voilà.
Non mais il faut toujours une première fois.
Voilà, il faut une première fois, moi c'était le Mont Fuji. Donc je n'avais aucune information concernant comment on devait monter une montagne. Généralement on le fait avec ses pieds, mais bon, il y a quelques conseils à prendre. Et j'y suis donc allé avec mon sac de 18 kilos et un litre d'eau.
Ah, c'est dommage.
Ce qui est très 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 intelligent. Donc je suis parti donc à 17h du Mont Fuji, de la base du Mont Fuji.
Du camp de base,
avec ma petite lampe frontale, mon litre d'eau et mon gros sac de 18 kilos. Et j'ai commencé mon ascension. Et ça m'a pris 12 heures.
Donc en fait, t'as grimpé toute la nuit.
Donc j'ai grimpé toute la nuit. Et de toute façon, généralement, les gens grimpent toute la nuit, puisque vu que le lever du soleil en début août se fait vers 5h du matin.
Faut partir tôt.
Et bon, moi je ne l'ai pas vu de tout en haut, mais je l'ai vu genre, des 3 quarts, des 4/5e. J'étais vraiment à 3 paliers de la fin. Et vraiment, voir le lever du soleil du Mont Fuji, c'est vraiment quelque chose mais d'incroyable. Ça n'a pas de prix, vraiment. Vous vous rendez compte que c'est un rêve qu'on réalise. Et lorsque j'ai vu le lever du
lever de soleil, ouais.
Je me suis dit, est-ce que je commence à redescendre maintenant ou bien je pousse jusqu'au bout? Et là, je me suis dit, si je monte pas là-haut, j'aurai la déception toute ma vie de ne pas être monté tout là-haut, malgré le fait que j'ai un sac de 18 kilos et qu'il y ait beaucoup moins d'oxygène en hauteur. Donc, j'ai fait ce que tout le monde fait, j'ai continué à monter, voilà, 100 mètres plus loin, j'étais exténué, et donc je me suis dit, bon, il va faire jour, ça fait une nuit que j'ai pas dormi, je vais me coucher sur le Mont Fuji. Donc j'ai posé mon sac, j'ai déplié mon manteau, puis je me suis endormi sur le Mont Fuji. Je me suis réveillé assoiffé et vaporisé par les rayons du soleil, il fallait absolument que je continue à monter, que je trouve une source d'eau. J'ai continué à monter, je suis arrivé au sommet à quatre pattes, littéralement, à bout d'oxygène, à bout de force.
Oui, parce qu'en plus, il faut le préciser, le Mont Fuji, je pense que dès la moitié de l'ascension, tu commences déjà à avoir un problème au niveau de l'oxygénation, c'est assez rapide.
Je dirais aux deux tiers.
Ouais, deux tiers, tu commences à...
Parce que à la moitié du Mont Fuji, j'étais encore de nuit, et du coup,
c'était plus frais,
il faisait plus frais, c'était plus simple. Lorsqu'on arrive au sommet et qu'il fait déjà 25 degrés, c'est plus possible. Ouais. Et d'ailleurs, en haut, je vous conseille de prendre de l'eau, puisque les bouteilles d'eau coûtent 5 euros, les petites. Donc, mais ça vaut vraiment le coup de monter le Mont Fuji.
Donc, t'es monté au bout de ta vie.
Voilà.
T'es resté combien de temps avant de repartir?
Ouais, je suis resté.
Avant de redescendre, quoi.
3 heures, dont 2 heures de sieste.
D'accord.
Et après, j'ai commencé la descente. Et la descente, c'est l'enfer. Puisque vous vous dites que la montée, c'est dur, il faut monter, etc. Mais quand vous descendez, et que vous devez descendre sur un chemin, on va dire, le même chemin pendant 5 heures, donc en fait, vous faites des zigzags pendant 5 heures, et ben ça vous tire sur les genoux, mais à un point. Et en fait, c'est vraiment fatigant, puisqu'il faut retenir donc son poids, plus le poids du sac, sur ses jambes.
Ça, je tiens à le préciser, c'est... j'avais appris ça parce que j'ai eu des problèmes au genou, je m'étais éclaté le genou il y a quelques années. Et en fait, ce qu'on m'avait dit, c'est que ce qui est plus, qui sollicite plus le genou, c'est pas le mouvement de monter, c'est celui de descendre. Parce qu'en fait, quand on monte, on plie à 90 degrés, mais quand on descend, non seulement on ramène très haut le genou, mais en plus on va tirer très loin en avant. Et donc on a plus d'amplitude et donc on tire plus sur les muscles. Même si on a le côté descente qui nous aide, en fait les chocs sont très violents à l'amorti puisqu'il y a tout le poids qui part en avant, là où dans la montée, il n'y a que ton poids que tu soulèves et tu n'as pas l'inertie en plus. C'était le côté kiné.
voilà, juste pour vous dire, je ne suis pas tombé à la montée, par contre à la descente j'ai fait deux sacrées gamelles.
Ah merde.
Ouais. Et puis quand tu chutes avec un sac de 18 kilos, tu le sens bien aussi.
Mais pourquoi t'avais 18 kilos de matos sur toi? C'est une grande question, ça. Bah, c'est parce que tu te baladais avec ta maison sur le dos, quoi.
C'était à peu près ça. Je me pose toujours la question de pourquoi j'ai pris un sac de 18 kilos.
Parce que, je sais pas, il doit y avoir des consignes, ça doit quand même être gérable, non?
Ouais, il y avait des consignes, mais je me disais que c'était pas si dur que ça.
Le mec qui veut jouer les héros.
Ouais, bah c'est la dernière fois que je jouerai les héros.
C'est bien, mais ça t'apprend à être raisonnable.
Un petit peu, ouais.
Alors du coup... Tu finis ton ascension, tu quittes le Japon.
Oui.
Et donc ça t'amène.
Et là on va faire un saut donc au Vietnam.
Alors bah, même question, qu'est-ce qui t'a amené à choisir le Vietnam? Parce que bon, autant le côté légendaire du Japon pour le geek, je vois bien, le Vietnam un peu moins.
Alors pour ceux qui ne le savent pas, donc j'ai été adopté à ma naissance et donc je suis né au Vietnam.
Ah mais c'est ça qui fait que t'as une tête d'Asiate.
Ah oui.
Putain, voilà, mais tout s'explique.
Il y a beaucoup de choses qui s'expliquent.
Donc tu n'es pas breton.
Non.
Ah c'est pas le Yann Breton, c'est l'autre.
Oui, c'est l'autre.
C'est pour ça que je me fais avoir à chaque fois quand j'écris ton nom sur le portail.
D'ailleurs, si vous voulez une blague, au Japon ils me parlaient japonais et au Vietnam ils croyaient que j'étais japonais.
Alors que t'as pas... Ah quoi que... Ah si, ouais, je vois ce qu'ils peuvent trouver de japonais sur toi.
Voilà. Mais même au Vietnam ils trouvaient que j'étais japonais, ça m'a beaucoup vexé. Et donc, voilà, donc je m'étais mis dans la tête, je pars au Vietnam pour la deuxième fois, tout seul. Et je me suis dit, j'ai envie de retrouver ma famille. J'ai envie de retrouver ma famille biologique. Alors, ouais. Est-ce que c'était faisable ou non, je ne sais pas.
Ouais, mais enfin, t'y es allé, entre guillemets, au culot, quoi.
Ah, j'y suis totalement allé au culot.
Et alors, du coup... T'avais des pistes ou t'y allais au pifos complet? Parce que j'imagine que voilà, le pays il est gigantesque. T'arrives pas à l'avant en disant bonjour, je m'appelle Yann, est-ce que vous connaissez ma famille quoi?
Alors je vais essayer de vous remettre un petit peu dans le contexte. Donc il faut savoir qu'on m'a entre guillemets abandonné au bout d'un mois d'existence et je n'avais pas de nom, pas d'information. On m'a laissé dans un orphelinat et c'est mon orphelinat qui m'a donné le nom aujourd'hui. D'ailleurs, ma page Facebook et mon nom sur Facebook proviennent donc de cet orphelinat. Je vous redonne le nom, hein, si vous ne le connaissez pas, Lê Minh Phuc, qui veut dire rayon de bonheur. Voilà. Et donc, lorsque mon père m'a laissé, c'est pas lui qui m'a directement laissé, ce sont les voisins, puisque c'était les seuls à avoir une mobilette à l'époque. Lorsqu'ils m'ont laissé donc à l'orphelinat, ils ont laissé deux choses avec eux. La première étant la photocopie des cartes d'identité de mes parents biologiques, et une lettre de mon père, écrite, manuscrit, et donc qui expliquait pourquoi, les raisons de mon abandon et où est-ce qu'il habitait. Alors cette lettre a été bien entendu écrite en vietnamien, donc j'ai jamais eu l'occasion de vraiment pouvoir savoir ce qu'elle disait. Et donc lorsque je suis arrivé à Ho Chi Minh Ville, la capitale donc...
du Vietnam ?
Non, la capitale économique du Vietnam, puisque la capitale est Hanoï.
D'accord.
Alors ça.
Moi, si tu veux, tu peux me planter tout ce que tu veux sur l'Asie. Je connais très voilà. Très mal. Je suis le blaireau typique sur ce sujet-là. J'ai que du cliché en magasin.
Voilà. Donc, en gros, je suis retourné là-bas. J'avais les papiers de mon orphelinat, donc j'y suis retourné. Ils étaient très contents de me voir, voilà. Et je leur ai montré donc la lettre qu'il y avait que mon père m'avait laissée, et ils ont essayé de la traduire et essayé de trouver quelque chose. Bon, ils m'ont envoyé vers un district où je n'ai rien trouvé. Mmh. Et j'étais assez triste, en fait, puisque je me disais, je ne vais jamais les retrouver, c'est impossible. Et j'avais donné la lettre à mon hôtel également pour qu'il m'aide à essayer de retrouver. Donc, je commençais à déprimer après être retourné à mon hôtel. Je n'étais pas bien, je voulais vraiment retrouver ma famille. Puis là, je reçois un coup de téléphone à 21h. Et c'est la directrice de l'hôtel qui m'appelle en me disant, écoutez... J'ai trouvé quelque chose, mais sur la lettre, il y a l'adresse de vos parents, et il y a l'adresse du village.
D'accord.
Et donc, je me suis dit, ok, d'accord, vous avez trouvé ça. Très bien. Vous pouvez me réserver un taxi et une traductrice pour demain, par hasard? Ils me disent, ouais, il n'y a pas de souci, pas de problème, ça vous coûtera tant, et puis on y va. Le lendemain, je me fais réveiller à 8h30, les gens sont là, je leur présente les papiers, les informations. La directrice de l'hôtel qui vient me voir et qui me demande, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez les retrouver? Je lui confirme, je suis certain, ouais. J'ai attendu ce moment pendant des années de ma vie.
J'imagine.
Et on part. Donc on part pendant 3-4 heures. Donc,
ça déambule, j'imagine. Pendant ce temps-là, tu dois te poser 12 millions de questions. Il doit y avoir une putain de tension.
Ah bah je me pose 12 millions de questions et je me demande si je vais réussir. Donc on arrive au village. Alors les villages sont très étendus, hein. C'est pas des villages comme on les connaît en France. On arrive donc à la mairie, on rencontre un officier à qui la traductrice montre la lettre, etc. L'officier de police qui est très gentil, etc. Il dit, la traductrice revient vers moi et me dit, il va se changer, il va nous accompagner. Donc il rentre à l'intérieur de la mairie, il se change et il monte dans le taxi et on part vers une nouvelle direction pour essayer de trouver des choses. On passe 2 heures à chercher des informations, on n'en trouve pas, on fait des maisons, on n'arrive pas à trouver, personne n'a d'informations. On finit par ramener l'officier chez lui, donc à la mairie. Et là, on se dit, on continue à chercher, et si on allait voir le croque-mort ? Bah, c'est peut-être là un endroit où on a le plus d'informations, peut-être.
Oui, puis le mec, il doit être un peu la mémoire locale, il doit connaître les gens et tout ça, ouais.
C'est ça. Et donc, on arrive chez le croque-mort, on lui dit bonjour, etc. Moi, je me sentais pas très bien d'y être, hein, quand
bah,
même.
Bah, oui, parce que ça sous-entend quand même des trucs d'aller chez le croque-mort.
Voilà. Et donc, là, on a une information qui nous provient de lui, qui nous dit, oui, je connais une femme qui doit le connaître.
D'accord.
Si vous allez là-bas, vous devriez peut-être la connaître. Et donc, on y va en s'empressant. Donc, on va dans une maison, on se trompe, c'est les voisins.
Oui, bon,
ça arrive. Hein,
j'imagine que là-bas, la nomenclature des rues, ça doit pas être non plus super précis.
Voilà. Et donc, on arrive sur une petite grand-mère avec ses petits-enfants qui sont autour d'elle. Le taximène et la traductrice lui montrent la lettre. Et là, révélation. Donc là, la grand-mère rentre, tout le monde rentre dans le taxi, le taximène, la traductrice, la grand-mère, 3 petits-enfants, c'est le Vietnam, on est
17. Ouais, j'allais dire, vous êtes 50 dans la bagnole.
On est 50 dans la bagnole, il n'y a pas de souci. Et là, il y a la traductrice qui se retourne vers moi et qui me dit on a trouvé votre frère.
Ouh.
Wow. Et là, ça fait un choc.
Déjà choc parce que t'étais pas parti pour trouver un frère, mais des parents.
Alors non, j'étais pas parti.
Tu savais qu'il y avait...
J'étais persuadé que mes parents étaient morts.
Ouais.
Alors, on reviendra sur cette information. Mmh. Et je ne pensais trouver que des frères.
D'accord.
Je savais que j'avais des frères.
Ok, tu savais...
Je savais qu'il y en avait et qu'ils existaient.
Ok.
Donc on prend la route, on commence à se déplacer donc, vers la maison. On arrive à la maison, devant le portail... Bon, moi, je suis en état de choc depuis le début de la route. Hein,
ouais, voilà. J'imagine.
Il y a tout le monde qui me tire à l'intérieur.
60 de tension, voilà. Ouais.
Il y a une femme qui m'accueille, qui me dit bonjour, etc. Oui. Ils discutent un petit peu ensemble et ils disent, oui, donc c'est la femme de ton frère. La femme de ton frère, très bien.
Déjà, c'est pas confrontation directe, il y a un palier intermédiaire, mais qui doit déjà être violent.
Voilà,
tu as rencontré ta belle-sœur avant ton frère, finalement.
C'est ça. Donc là, elle s'empresse de courir dans la maison pour aller le chercher. Ouais. Et là, je vois une personne qui sort donc habillée en jaune. Et donc, ça me
ressemble. C'est raciste ce que tu dis. Non, je déconne. Vas-y, continue.
ça fait rediminuer un peu l'attention. Ouais. Et donc, voilà, cette personne donc, se présente devant moi. À peu près à notre distance, tu vois.
Ouais. Alors, pour vous situer, on est à moins d'un mètre l'un de l'autre.
Voilà. Puis là, il me regarde et il me dit. Il me marmonne un truc en vietnamien. Et je le regarde, la traductrice, et elle me dit. Il t'a dit bonjour, je suis ton frère. Essayez de vous imaginer la situation. Je n'ai jamais vu cette personne pendant 22 ans. Je ne sais pas.
Tu l'as jamais vu du tout.
Je l'ai jamais vu du tout. Je ne sais pas qui c'est, mais on est frères. Donc là, il m'emmène à l'intérieur de la maison et il m'emmène devant l'hôtel funéraire où se trouvent donc les hôtels de ma mère et de mon père. Il tire la carte d'identité de mon père. Il me la montre.
Ouais.
Je la prends dans mes mains, et c'est là que je me rends compte que bah, j'ai réussi.
T'as trouvé, t'as atteint le...
Que j'ai en face de moi, j'ai mon père et ma mère qui sont là, et que j'ai réussi, quoi.
T'as rebouclé la boucle.
J'ai rebouclé la boucle, je suis revenu là où je suis, là d'où je viens.
Bah, tu m'avais raconté que t'as vu littéralement l'endroit où t'es né.
Oui, alors ça c'était après la Corée du Sud.
D'accord.
Mais j'aurai l'occasion on va en reparler. Parce que du coup, cette rencontre n'a duré que 2 heures, puisque j'avais demandé donc à ma traductrice et à mon taximène de m'accompagner, mais comme je vous l'ai dit, 3 heures de route, il fallait qu'ils rentrent, etc.
Oui,
enfin,
tu ne pouvais pas non plus, ouais.
Voilà, je ne pouvais pas rester indéfiniment. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai discuté un petit peu, j'ai pu apprendre que mon père était mort il y a 3 ans, j'ai pu apprendre que j'avais une famille qui se composait de 11 frères et 3 sœurs.
Ah oui, quand même.
Oui, sachant que ses frères et ses sœurs ont des femmes et des maris, qu'ils ont des enfants et que ces enfants commencent à avoir des enfants. Bref, essayez de vous imaginer qu'en 2 heures, j'ai appris que j'avais 5 frères, une famille de 70 personnes, et qu'ils étaient tous mariés et que je venais de retrouver la maison de mon père. et que mon père était mort. Voilà, ça fait beaucoup d'informations en deux heures.
Moi, j'ai une question par rapport à tout ça. Là, c'est le côté romancier qui va parler. Une aventure comme ça, niveau ascenseur émotionnel, c'est Space Mountain, quoi.
Ah bah, j'ai pleuré pendant une demi-heure, hein, je crois. Hein.
Ouais.
Et encore, c'est rien, parce que, comme je l'ai dit, il y a un deuxième voyage. Donc, après mon séjour en Corée du Sud, j'y suis retourné. Et là, niveau ascenseur émotionnel, je vais vous en balancer. Hein, donc,
Ah bah, vas-y, enchaîne, on va faire la transition comme ça.
Bon, bref, on fait la transition. De toute façon, en Corée du Sud, voilà, études, alcool, plein de trucs, etc. Donc, on rentre, enfin, j'aurai l'occasion de reparler. Peut-être que ça serait mieux, non, en fait, de faire le voyage dans l'ordre, ou pas.
Enchaîne sur la famille, parce que là, on
va enchaîner sur la famille.
Les gens, tu t'imagines les gens qui vont attendre que tu leur reparles, ils vont dire, mais on s'en fout de la Corée, parle de nous.
Ok, bon, on va continuer. Donc, après mon séjour donc en Corée du Sud, je suis retourné directement au Vietnam. J'avais promis à mes frères d'y retourner, de toute façon, ils voulaient absolument.
Oui, j'imagine que eux aussi. Ça... D'ailleurs, est-ce que tu leur as demandé ce que eux, enfin, c'était peut-être compliqué à cause de la barrière de la langue, mais. Ce que eux ça leur faisait d'avoir alors t'es plus jeune qu'eux, t'es le petit dernier de la famille, c'est ça?
Enfin, je suis le petit dernier de la troisième femme.
Donc, d'accord, si oh putain, oui, c'est compliqué.
Alors attendez, on va réexpliquer la situation. Mon père a eu quatre femmes, d'accord? Je suis le dernier enfant de la troisième femme. Voilà.
Donc ce qui veut dire qu'il en a eu avec la quatrième et qu'il peut y avoir de...
Okay. Il y a eu deux filles et un garçon avec la dernière
d'accord.
femme.
Donc t'es dans les petits quand même.
Voilà, je suis dans les petits. Ouais, okay. J'ai 22 ans, voilà, mon frère aîné, il en a 30, il me semble.
D'accord.
Donc voilà. Okay.
Donc eux, est-ce que voilà, t'as eu quelque part leur feedback sur bah, eux, ce que ça leur a fait de se découvrir. Déjà, est-ce qu'ils savaient que t'existais? Et d'avoir un petit frère qui arrive de France comme ça, en mode « Salut les gars
!» Ils étaient super heureux. Ils étaient super heureux.
Ils savaient que...
Ils savaient. Ouais. Ils m'ont dit que pendant tout ce temps où j'étais absent, mon père a toujours parlé de moi.
Ouais.
Il s'est toujours demandé ce que je faisais dans la vie et où j'étais. Et voilà. Et même mes frères ont organisé une battue dans toute la région, dans toutes les églises, pour essayer de me retrouver. Mais j'étais déjà en France.
D'accord.
Et... ouais... Ils étaient fiers de retrouver leur frère. Ils étaient vraiment, vraiment fiers.
Alors, je vais mettre un peu de pommade aussi, mais en plus, voilà, le frère qui fait des études d'ingénieur, qui va dans 50 000 pays et tout, ça claque quand même.
Bon, ils étaient plus intéressés par le fait que, est-ce que j'avais une femme, est-ce que j'avais des enfants.
Ça, c'est marrant parce que tu vois, c'est moi, j'ai réagi comme un connard de français, mais peut-être qu'eux n'ont pas du tout les mêmes valeurs sur qu'est-ce qui est important dans la vie. Et peut-être qu'ils disent ouais t'es ingénieur mais en fait t'as pas de femme, c'est pas bien.
Bah en gros ouais c'est pas.
Non mais c'est génial.
En gros
c'est
la première, génial. En gros la, enfin les premières réactions que chaque personne a eues c'était plus ou moins du ah oh, il est beau, il est génial, est-ce qu'il a une femme.
Ouais mais parce que tu, voilà t'as 22 piges donc enfin je pense que n'importe qui en France a 22 piges, on se dit ouais bon il est pas marié, éventuellement il a une copine mais. Basta, te marier, c'est quoi? C'est t'as 25-30 piges. Et c'est trop marrant de voir que, donc dans une autre culture, radicalement différente de la nôtre, les valeurs, elles sont pas sûres. T'as un boulot de gueudin. Les mecs, ils s'en foutent. C'est genre, non mais est-ce que t'es marié?
C'est ça. Bah, à 22 ans, t'es marié, t'as un gosse.
T'as un gosse et tout. Ouais, non mais c'est.
Bah là,
c'est, quelque part, je trouve ça génial, quoi.
Pour te donner un ordre d'idée, j'ai une sœur qui est pas loin d'un. Non, pardon, j'ai un frère qui a quasiment mon âge.
Mm-hmm.
Qui lui s'est marié à une top modèle. Putain, lui, il a de la chance.
Oui, je crois que tu m'avais raconté
oh,
ça.
Oh là là, elle est belle, sa femme, putain.
Et oui, donc, c'est la sienne, donc.
Voilà, voilà, c'est la sienne. Et du coup, bah, on peut la suivre sur Facebook. Et du coup, bah, on voit le petit bébé qui naît dans le ventre et qui grossit et qui grossit. Et ce frère est plus jeune que moi.
Ouais, bon, ça veut rien dire. Ça.
Voilà.
Ça veut rien dire.
Donc voilà, ouais, il voulait absolument me présenter une femme. Il fallait que je trouve une femme. Et que je fasse des gosses. Et que j'aille vivre, que je revienne vivre au Vietnam, surtout. C'était le plus important pour eux.
Est-ce que t'aimerais?
Je sais pas. Franchement, la vie est faite de choses qu'on peut pas vraiment déterminer. Donc,
sans même parler du pays. En excluant le côté bah, tu parles pas forcément la langue, que c'est pas forcément la même vie qu'ici, mais le fait de vivre avec cette famille, c'est plus dans ce sens-là que je te pose la question. C'est-à-dire que là, ce que tu me décris, moi, ça me rappelle un peu le côté de famille que j'ai, du côté de ma mère, c'est des Espagnols, ils sont 150 000. Pareil, c'est les cousins, les cousines, les enfants des cousins, c'est tes neveux. Enfin, c'est vraiment la famille super élargie à la méditerranéenne. Et c'est un truc que je connais, je sais que c'est cool à vivre et qu'en même temps ça peut être assez casse-couille. Et est-ce que toi, tu te dis pas, ah, ce serait marrant d'être dans la famille? Parce qu'en en Europe, on est très individuel, on n'est plus trop famille, on est plus les amis, on vit avec notre cercle d'amis. Et donc, toute cette longue phrase pour te demander, est-ce que toi, tu te verrais vivre au sein de cette famille, quitte à ce que tu vives ici et qu'ils viennent, enfin, peu importe.
C'est compliqué. On va dire que le fait est que j'ai eu une famille pendant 22 ans, et j'ai toujours une famille pendant 22 ans, bien sûr, que j'ai connue, qui m'ont aimé, qui m'ont chéri, qui m'ont tout offert, et je peux pas les abandonner, quoi.
Non, non, on les intègre, allez, on les rajoute, justement, ça rajoute du lol dans le truc. T'embarques ce que t'as de famille française et tu les fusionnes et tu rajoutes la famille Thaï au milieu.
Bon, ouais. Franchement, ils sont cool.
Moi, j'imagine.
Ouais, ils sont très cool. Puis il y a des bars à proto au Vietnam.
Des quoi?
Des bars à protoxyde d'azote.
C'est-à-dire que nous, on le met dans les bagnoles et eux, ils se le mettent dans le nez.
Ouais. Tu peux t'acheter des bonbonnes de protoxyde d'azote dans les bars, c'est trop bien.
Dans les bars?
Mais oui, c'est ce que je te dis, t'as des barres à proto. Ouais. Le mec, il te file un sac de ballon, une bonbonne.
Oui, c'est comme la chicha, quoi.
Ouais, voilà.
C'est la chicha locale.
Ouais, sauf que là, tu kiffes à fond.
Ah bah, protoxyde d'azote, oui, tu m'étonnes. Donc, le prochain Fast and Furious en Thaïlande, ça peut être...
Alors, tu veux dire au Vietnam?
Ouais, oui, en Thaïlande.
Ouais. Alors, il s'est passé des trucs en Thaïlande, je suis sûr que les gens seront très intéressés de le savoir.
Non, on abordera
mais
ça.
Mais on aura l'occasion de l'aborder, et je vous préviens, c'est un gros morceau aussi.
Oh putain.
Et je ne parle pas de Lady Boy. Ouh, on ne sait pas.
On ne sait pas. On se méfie. Alors, donc, il y a ce retour avec la famille, avec la découverte du fait que bah, d'un seul coup, tu passes de un grand vide où tu ne sais pas trop d'où tu viens à il y a une forêt qui s'est déployée, une arborescence gigantesque où finalement il y a 12 millions de personnes à découvrir.
Voilà, c'est ça.
Alors, justement, cette découverte, t'en es où? Parce que j'imagine que t'as pas passé, vu le peu de temps que t'es resté là-bas, t'as pas vu tous les cousins, tous les frères, tous les neveux et tout ça?
Ah bah ça, c'est impossible, hein, parce que... Essayez de comprendre. Je viens de mon père et de sa troisième femme. Mais mon père, il avait des frères aussi. Ses frères.
Oh, oui, ah putain, ah oui, j'avais pas pris ça en compte.
Et attendez, c'est pas fini. Parce que du côté de ma mère... ma mère, elle avait des sœurs et des frères.
Ah ouais, ça veut dire que la famille a des connexions...
Ah, les connexions sont gigantesques, hein, au Vietnam. Et d'ailleurs, blague à part, j'ai rencontré la deuxième femme de mon père et les sœurs de ma mère.
D'accord, toujours donc, tante, donc tes tantes.
Donc mes tantes, ouais.
Et alors pareil, elle, ça a dû être...
Oh bah, choc émotionnel, je crois que j'ai pleuré pendant toutes les retrouvailles. Hein. Non, j'ai pas pleuré pour les retrouvailles avec la deuxième femme de mon père parce qu'en fait j'avais tellement pleuré qu'en fait j'arrivais plus à pleurer.
D'accord, t'étais à sec quoi.
Ah, j'étais à sec. Hein. Je crois que le moment le plus émotionnel de ma vie,
ouais,
bah, c'est quand j'ai retrouvé la tombe de mon père et de ma mère quoi, qui était pas loin dans le village et qu'on est allé avec les sœurs de ma mère, qu'on est allé avec mon frère, les petits enfants. Qu'on a acheté des bières, de la nourriture, qu'on a déposé en offrande sur leur tombe et qu'on leur a ouvert des bières. C'est là que j'ai compris que, enfin, essayez de vous imaginer, chez nous, en France, on dépose des fleurs. On dépose des fleurs pour que ça soit joli, pour que le cimetière respire. Chez eux, on leur apporte de la nourriture et de l'alcool, et on trinque avec eux, pour que même dans l'autre monde, ils continuent à boire avec nous. C'est le joli. Pouvoir de l'alcool. C'est génial.
Ça donne envie d'aller au 1er novembre faire des pique-niques dans les cimetières. Moi, alors je te dis franchement, les cimetières, c'est des lieux que je déteste. Je pense que comme beaucoup de gens, j'ai un rapport très particulier avec ça, avec la mort, avec le souvenir, le fait d'entretenir le souvenir. Et dans ma famille, ça me vaut moult remarques, mais bon, je m'en fous. J'assume. Et je pense que c'est quelque chose que j'aurais mieux vécu si on avait cette culture-là, ou un peu comme les Mexicains ont.
Ou les fêtes de la mort.
Ouais, voilà. Alors, je ne vais pas dire le côté festif, parce que c'est pas genre « Wouhou, on fait la teuf, c'est super cool », mais c'est un rapport au souvenir que je trouve plus sincère que le côté « tu vas bader devant une tombe ». Et moi, je le vis comme ça à l'occidental. Et du coup, quand tu me racontes ça, je jalouse presque cette culture-là de communion, parce que c'est le vrai sens de la famille. Le fait d'aller sur la tombe, c'est le prétexte. Mais du coup, t'en profites pour partager du temps avec les gens. Tu fais pas ça tout seul. Et alors qu'en France, le cimetière, c'est très solitaire, je trouve, comme exercice de style.
Bah, il faut se dire que lorsque j'ai retrouvé la tombe de mes parents, c'était pas des larmes de tristesse en soi qui coulaient de mes yeux. Enfin, il y en avait, bien sûr, c'est normal. Mais c'était plus des larmes de retrouvailles. Parce que.
De soulagement, peut-être.
Bah, déjà de soulagement, de se dire que bah, j'ai répondu à une des questions principales de ma vie. Et surtout de pouvoir lever ma bière et de trinquer avec celle qui était posée sur la tombe de mon père et de la boire. J'étais plus dans la sensation de me dire.
Ouais, j'ai pu trinquer avec lui.
J'ai trinqué avec mon père pour la première fois de ma vie, c'est fou.
C'est très beau, même.
Ouais. Et du coup, quand je retourne sur la tombe de mon père, je suis pas triste. Je suis content de le voir.
Alors, là, on est à gogo dans la séquence émotion. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi peut-être des moments un peu plus fun avec la famille. Des moments plus cocasses, peut-être.
Ouais, après avoir retrouvé la deuxième femme de mon père, on s'est retrouvé le soir et que j'ai fini complètement bourré avec mes frères. Parce qu'il faut savoir qu'au Vietnam, se mettre une caisse, c'est vraiment se mettre une caisse. C'est-à-dire qu'eux, ils achètent la bière en caisse.
D'accord, oui, c'est très littéral.
Donc, ils se ramènent avec une caisse de 25 bières. On est 5-6 autour de la table. Et puis, on boit. Et puis, on boit. Et puis, on mange. Et puis, on boit. Et puis, on mange. Puis, au bout d'un moment, on finit par tomber par terre.
Ouais, t'es débranlé complet, quoi.
Ah ouais, non, c'était terrible. Alors, si tu veux une bonne anecdote aussi.
Vas-y.
Alors, la meilleure anecdote que j'ai à raconter, donc, c'était... lorsque j'ai rencontré mon dernier frère, donc à Ho Chi Minh-ville, alors je revenais donc du village, puisque faut savoir que mon village était situé dans la jungle, au nord de Ho Chi Minh, et donc j'avais mangé un truc pas frais le matin, j'étais pas bien, etc. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Et donc j'arrive dans la maison de mon frère, j'arrive devant lui, etc. Je suis pas bien, je suis vraiment pas bien. La famille me fait monter donc à l'étage et me donne des médicaments. Et donc, là, j'avale les médicaments, et là, je me sens vraiment de moins en moins bien.
D'accord.
Puis là, il y a ma... Comment ça s'appelle ? Alors, putain, c'est compliqué. Il y a la femme de mon troisième frère.
Oui, la belle-sœur. Il y a une belle-sœur.
Ouais, il y a une belle-sœur qui vient me présenter mon frère, mais qui n'est pas du coup sa femme. Qui dit, hey, regarde, c'est ton frère, on l'a retrouvé. Enfin, voilà, fais-lui un câlin, etc. Et moi, j'ai eu la plus belle réaction du monde. C'était « Bonjour, je suis ton frère » et j'ai vomi.
Je suis content, j'ai vomi.
Mais c'était pas un vomi, comme j'ai jamais fait un truc comme ça. Quoi.
Si tu veux nous épargner les détails.
Ouais, je vais vous épargner les détails, mais c'était vraiment pas beau. Enfin, vous imaginez mon frère avec la main tendue, avec son recevant un tir de lama dans la tronche.
D'accord.
Je suis content de te rencontrer, moi aussi.
Ah, ça laisse un souvenir.
Ah, c'était un beau souvenir. Franchement, je serais vraiment épargné ça.
Retour avec Yann pour la deuxième partie de cette interview sur ce voyage. Alors j'allais dire autour du monde, non, pas vraiment, parce que c'est un voyage autour de l'Asie, mais pas tellement. C'est un peu un voyage bizarre. Tu fais vraiment toujours des voyages bizarres.
Non, c'est pas ma faute, je choisis pas mes destinations.
Oh, c'est tes destinations qui te choisissent.
Absolument.
Oh, c'est tellement beau.
Sauf quand il s'agit de faire des visas.
Alors, on s'était arrêté sur. La partie retour à la famille et puis voilà, moment d'émotion et un peu de rigolade avec ce bonjour
ce bonjour arrosé
ce bonjour arrosé. Du coup, après, donc t'as bougé vers, c'est donc le Cambodge.
Donc là, on va reprendre, oui, sur mon premier voyage, et je suis donc allé au Cambodge. Donc au Cambodge, je connaissais pas ce pays, hein, je m'attendais à tout et à rien. Et ma première impression en y arrivant, c'est que c'était déjà moins pollué et moins oppressant que le Vietnam. C'était mon premier ressenti, en tout cas. Et donc, voilà, donc je suis arrivé dans ce pays que je ne connaissais pas, je me suis installé dans mon auberge, etc. Et j'ai commencé à faire un petit peu mes découvertes. Et donc, dans les grandes découvertes, donc, je vous passerai donc, tous les détails ou les problèmes que j'ai pu avoir avec les différents tuk-tuk. Et donc, le monument qui m'a vraiment touché au Cambodge, en tout cas, c'est le monument en mémoire donc, du génocide des Khmers Rouges qui a eu lieu donc, sous le régime de Pol Pot pendant le XXe siècle.
Alors, pour resituer un peu contextuellement à nos auditeurs, Pol Pot, c'était un dictateur dans la grande lignée des Staline, Hitler, Mussolini et compagnie, qui a, lui, pour particularité, d'avoir été tellement une espèce de mégalomane qu'il s'est mis à refaçonner l'histoire autour de lui. Donc il y avait le culte de la personnalité. Et de fait, il a éradiqué des monceaux entiers de population, et notamment des intellectuels ou autres, pour justement justifier que l'histoire était refaçonnée comme lui la racontait, puisque tous ceux qui auraient pu dire le contraire étaient envoyés à la moulinette.
C'est ça. Donc il faut savoir que Pol Pot a massacré donc un quart des Cambodgiens, de la population cambodgienne de l'époque. Et donc ce qui nous touche vraiment en entrant dans ce mémorial, c'est la manière crue dont on est vraiment accueilli et dont... Enfin, on voit le massacre qui a eu lieu. Pour donner un ordre d'idée, le monument est construit autour d'une tour. Cette tour contient des ossements et des squelettes et des montagnes de crânes.
Oui, parce que le monument, c'est une espèce de nécropole.
C'est une vraie nécropole. En fait, c'est le camp, l'un des camps principaux où les Cambodgiens se faisaient massacrer. Donc on a toutes les représentations de comment ils étaient tués, comment ils étaient stockés.
Alors, tu me confirmes un truc ?
Oui.
Moi, de ce que j'en sais, donc à savoir pas grand-chose, le truc que j'ai retenu de ça, c'est que il y avait donc un niveau déjà d'endoctrinement des jeunes qui était complètement ouf, et que les moyens d'extermination, alors quand on parle d'extermination, on va tout de suite penser aux nazis, point Godwin, haha, ça y est, c'est fait. Et de ce que moi j'en sais, la version Pol Pot, c'était de la boucherie à la vraiment hardcore. C'est-à-dire que autant les Allemands avaient ce côté Deutsche Qualität de on fait du rendement et on a une machinerie inhumaine, certes, mais qui vise à une efficacité, là où les Cambodgiens, c'était, si je ne m'abuse, à la machette et ils y allaient vraiment dégueulasse, quoi.
Eh bien, si tu penses que ce n'était qu'à la machette, tu te trompes, parce qu'il y a beaucoup d'autres manières de tuer un humain. Alors, je vais juste vous donner un ordre, un monument qui est absolument immonde et sordide, et c'est peut-être celui que j'ai le plus retenu. Mm-hmm. Ce monument s'appelle l'arbre aux enfants. Alors, je te laisse deviner comment il tuait les enfants sur cet arbre.
Oh, une petite pendaison, peut-être ?
Oh non, une pendaison, c'est trop gentil.
Alors, je vais opter pour l'embrochement ?
Non plus. Il y avait un arbre à embrochement, mais il était pour les adultes.
Ah, pardon, voilà. Je confonds.
Mais l'arbre aux enfants, en gros, ils amenaient les enfants autour de cet arbre.
Ouais.
Ils les prenaient par les pieds et leur fracassaient le crâne contre l'arbre.
Ah, d'accord, ouais.
Voilà, ça, c'était la manière de tuer les enfants. Et ils ont fracassé des dizaines de milliers d'enfants sur cet arbre.
Alors, peut-être que tu n'as pas la réponse, mais je pose la question quand même. Est-ce qu'il y a des explications sur cette barbarie? Parce que j'en reviens toujours à mon exemple. Les nazis, on sait pourquoi, parce qu'ils avaient leur endoctrinement, que les juifs c'était machin, le mal et tout, nanana. Et puis l'extermination, ils faisaient ça au rendement. C'est-à-dire pourquoi ils utilisaient le gaz, c'est parce qu'ils pouvaient en zigouiller 50 000 d'un coup, et que d'un point de vue rentabilité économique, ça leur allait bien. Là, je comprends pas, qu'est-ce qui fait que tu te dis, on va se faire un petit coup de fun, les enfants, on va les tabasser sur l'arbre. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une raison derrière ça, ou est-ce que c'est juste parce que les mecs étaient complètement cramés du bulbe ?
Eh bien, il y a une expression qui dit, si tu veux couper un arbre de manière efficace,
ouais,
tu coupes les feuilles, tu coupes le tronc, mmh, et tu arraches les racines. Les racines, ce sont les enfants. Pour eux, la corruption face au régime de Pol Pot s'étendait sur toute la famille.
Ouais.
Si une personne était contre le régime de Pol Pot ou laissait paraître, puisque c'est toujours du laisser paraître, puisqu'au bout d'un moment ça n'avait plus aucun sens,
mmh,
laisser paraître être contre le régime de Pol Pot,
ouais,
on exterminait toute la famille.
Ok, mais ça, j'ai envie de dire, ça existait aussi dans le régime stalinien ou même le régime nazi. J'ai envie de dire, le fait de tuer les enfants en soi, je vais mettre des gros guillemets dans ce que je vais dire, je peux le comprendre. Mais je parle de la modalité d'exécution, parce que enfin, déjà, ça doit prendre un temps démentiel, parce que tu dis, ils ont zigouillé un quart de la population. Si jamais ils s'amusaient à faire ce genre de conneries, ça se faisait pas en 5 minutes. Donc, c'est te dire à quel point c'est dément. Et puis, les mecs qui exécutaient ces basses besognes, je pense que les gars, ils ont dû péter un boulon au bout d'un moment. Enfin, tu peux pas t'amuser à exterminer des mômes, des familles et tout, en y allant avec une telle barbarie. Sans finir par... alors, soit t'es déglingué et du coup, ça te permet de faire ça, soit tu l'étais pas avant et à force de le faire, tu le deviens.
Tu l'étais pas avant et à force de le faire, tu le deviens. Et lorsque tu le deviens, et ben, tu deviens comme les autres.
Ah, et après, tu...
Et tu es massacré. En fait, à force de voir des gens se faire massacrer, la pensée des personnes, c'est... Si jamais je le fais pas, c'est moi qui vais y passer. Donc, autant le faire. Mm-hmm. Et le problème, c'est ça, c'est que c'est toujours plus simple de faire une tâche qu'on a un pistolet sur la tête. Mm-hmm. Voilà, donc ça c'était l'arbre aux enfants, et donc tu revenais à la question de la machette, mais il n'y avait pas que la machette. C'est-à-dire qu'en gros, il faut savoir donc, que les balles coûtaient très cher,
ouais.
Et qu'il y a une vitrine en fait, qui expose des crânes, et on voit toutes les manières, et toutes les... de manière avec des radios, etc., de voir comment les gens se faisaient massacrer. Donc il y avait, alors là, c'est là que l'homme est absolument incroyable, et ça m'a fait des frissons dans le dos de voir la manière dont on pouvait les tuer. C'est-à-dire qu'en gros, donc on les embrochait sur des arbres avec des feuilles tranchantes, on les massacrait à la massue, au marteau, à la faucille.
C'est très communiste.
Ça. Voilà, j'ai fait le rapprochement sans vraiment, mais bref, voilà, c'est la manière dont on les massacrait. On leur mettait des balles dans la tête, on les fracassait à coups de clubs de golf ou des objets contondants.
Ça, c'était pour les mecs sportifs, donc. Ouais, un peu d'humour noir.
Ouais, un peu d'humour noir. Et alors, après, une fois qu'il
t'a... Attends, excuse-moi, je te coupe. Donc, si je reviens sur ce que tu disais, le fait qu'ils aient autant de modalités à la con, c'était purement économique. C'est parce qu'ils n'avaient pas les moyens de les fusiller tous, en fait.
C'était totalement économique.
D'accord.
Et donc, une fois qu'ils étaient, qu'ils étaient tombés dans la fosse aux morts, on les recouvrait de DDT. Donc, DDT.
Alors, précise pour nos auditeurs.
Donc, le DDT, c'est le produit qui permet, c'est le produit qui permet de lutter contre les insectes dans les plantations. C'est de l'insecticide. Donc, en gros, ça servait à camoufler l'odeur des morts et ça permettait aussi d'achever ceux qui ne l'étaient pas complètement. Puis, pour ceux qui ne l'étaient pas complètement, eh ben, on les enterrait vivants avec les autres.
Mmh. Ouais, ça veut dire que si tu survivais aux mutilations, aux brutalités et aux jets dans la fosse commune... éventuellement on t'achevait sur l'insecticide et si vraiment t'étais un dur à cuire on t'enterrait vivant.
C'est ça.
D'accord. C'était des vacances sympas que t'as menées, hein.
Je pense que c'est peut-être l'une des choses qui m'a le plus choqué de mon voyage, puisque je pense que, enfin, essayez de vous imaginer, vous vous retrouvez devant ces endroits, et je pense que ceux qui ont pu aller voir les camps de la mort, les camps de concentration comme celui d'Auschwitz.
J'allais te poser la question si t'avais eu l'occasion, genre, parce que c'est souvent quand t'es à l'école où tu fais la visite comme ça de ce genre de lieu. Alors pas forcément les camps allemands, parce que c'est un peu loin, mais il y a eu malheureusement des camps plus proches de chez nous et qui se visitent.
J'ai eu l'occasion de les voir et c'était pas la même chose. C'est-à-dire que des camps de concentration qu'on a conservés en tant que mémoriaux, on a enlevé beaucoup de choses, on a laissé donc les traces où étaient les bâtiments, etc. Mmh. Essayez de vous dire que là-bas, les bandeaux qui servaient à empêcher les prisonniers de voir sont toujours sur place.
Et d'accord, toujours... ce qu'on mettait aux gens qu'on fusillait ou les conneries comme
ça. C'est ça. Il y a toujours des traces de sang sur certains monuments. Enfin, il n'y a pas de comparatif à faire sur les génocides.
Alors, j'allais dire qu'on soit bien d'accord, on n'est pas en train de faire le top 5 meilleurs génocidaires. Hein. Voilà. On n'est pas tordu à ce point-là.
Mais, enfin, vraiment, le fait de voir tout ce dont est capable l'humanité pour s'auto-massacrer, c'est dément. Enfin, j'ai pas de mots. Moi, je suis vraiment ressorti de cet endroit, mais bouleversé. Mmh. Et c'est pas des petits mots que je dis, vraiment, c'est...
Alors moi, je me rappelle que quand tu avais fait cette visite, tu avais envoyé justement des trucs sur le net. Et ça avait amené à différentes discussions ou autres. Et moi, je m'étais rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient complètement passés à côté de cette histoire-là. Alors, pas que les gens s'en foutaient, mais... En fait, je pense qu'en Europe, on est tellement focalisé sur le génocide hitlérien qu'on en oublie qu'il y a eu les pogroms en Russie, qu'il y a eu donc Pol Pot, qu'en Corée, c'est pas triste non plus, même encore actuellement, qu'en Amérique latine, alors j'ai peur de dire des conneries, donc je vais pas citer un pays en particulier, mais qu'il y a eu voilà, des pays où il y avait des rafles, des camps de la mort, j'en passe et des meilleurs. Et on oublie, ou un truc encore plus récent, le Rwanda, ou ce que tu me décrivais, j'ai l'impression d'être un reporter de guerre qui dit « Oh oui, ça je l'ai vu là-bas », mais ça m'a rappelé ce genre de barbarie aussi, et je sais pas, moi j'ai l'impression que les jeunes, parce que c'est les gens qui te suivaient et qui ont réagi autour de ce message, c'est plutôt des gens jeunes, avait comme étalon suprême du mal les trucs nazis, et que tout le reste, bon, c'était des guerres, mais on ne savait pas trop ce que c'était. Et là encore, je ne veux pas dire qu'on fait la compétition à qui est le plus maléfique des tortionnaires extrémistes, mais on retrouve un schéma, on retrouve quelque chose à chaque fois sur ce côté inhumain. Et en ces temps d'élections qui approchent et de propos de merde qui se propagent, je me dis que c'est un bon rappel à faire. On dit, ouais, comment les gens peuvent. Moi, j'aurais envie de te répondre, regarde en ce moment ce qui se dit, ce qui se fait, et ben voilà comment les gens peuvent. En écoutant petit à petit des gens et en se disant, ah, il a raison quand il dit ça quand même, hein. Et que cette barbarie, elle nous pend au nez. Et le barbare, c'est pas l'autre. Je crois que c'était le sociologue, il est tellement connu que j'ai oublié son nom, bien évidemment, mais qui disait les barbares, c'est ceux qui croient en la barbarie. Et à force de dire, ah, mais c'est les barbares qui font ça, c'est les sauvages, ces trucs, on va finir par le devenir à force de croire que c'est chez les autres. Et en n'étant pas foutu de se rendre compte que c'est en train de se refaire chez nous. Voilà, c'était mon petit interlude politique, message militant. Hein.
Je pense que c'est important de rappeler, encore une fois, pour les personnes qui nous écoutent, qu'il n'y a pas de classification des génocides en termes de,
il n'y a pas de best-of,
de monstruosité. Tous les génocides ont été monstrueux. Mais vraiment de...
Mais c'est d'y être confronté, finalement.
C'est d'y être confronté et de voir la réalité. Et que non, notre monde n'est pas tout rose. Et que...
En fait, le truc à dire, c'est que ces choses ne sont pas derrière nous. C'est peut-être ça aussi le mauvais réflexe qu'on a, c'est de se dire c'est du passé, c'est dans d'autres pays, c'est ailleurs. Et je reviens à ce que je disais précédemment, hein, ça nous pend au nez. Peut-être pas aussi violemment, mais est-ce que vraiment on a besoin de même la moitié, le quart de ces conneries-là? Et du coup, peut-être qu'il y a plus de gens qui devraient faire ce voyage, ou en tout cas se documenter sur la question, parce que bah, c'est complètement n'importe quoi. Mais c'est du n'importe quoi qui est lié aux gens, à des politiques ou autres, et des gens qui ont des idées à la con. Vous en avez autour de vous, chers auditeurs, donc voilà. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit.
Et je vais être franc avec vous. Le régime de Pol Pot, qui, tel qu'il a été, n'est pas si différent que ça. Alors, je parle en globalité, hein, mais il n'est pas si différent que ça de ce qu'on a pu voir en Corée du Nord avec le culte de la personnalité de Kim Jong-un et de Kim Jong-il.
Ah bah c'est exactement pareil. Hein.
Et ça ne m'étonnerait pas que si un jour on libère le pays,
bah, qu'on découvre...
Et qu'on découvre des lieux génocidaires qui ont été, qui ont été présents de telle... De la même manière, donc, que ce soit en Europe ou bien que ce soit au Cambodge. Si on parlait de quelque chose de plus joyeux.
Tu m'ôtes les mots de la bouche, là. Je sentais la pression qui nous montait dessus et j'avais envie de dire non, 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 surtout pas. Revenons à des trucs plus cool. Alors, le Cambodge, il n'y a pas que ça.
Il n'y a pas que ça, voilà.
Vends-nous du rêve.
Je vais vous vendre du rêve et on va tout de suite partir donc, à 4 heures de bus donc, de Phnom Penh, qui est donc la capitale du Cambodge. Pour se diriger vers les temples d'Angkor Wat et le site de Siem Reap.
Alors, je ne sais pas si ta cinéphilie va jusque-là, mais est-ce que...
Si tu me parles de Lara Croft.
Non.
D'accord.
Innocent va. Moi, je vais te parler de Vandamme. Est-ce que c'est pas le décor qu'on voit dans Kickboxer?
J'ai pas cette référence.
Voilà, et voilà. Et voilà. Parce qu'à un moment, dans Kickboxer, Jean-Claude, il s'entraîne devant les temples. Je crois d'ailleurs qu'il est pas du tout au Cambodge, mais en Thaïlande, mais on s'en fout. Parce que c'est le même genre de décor avec les Bouddhas couchés et tout ça. Voilà, je voulais parler de Vandamme en fait. Voilà. Jean-Claude, je t'aime. Je sais que cet amour est impossible, mais je tenais à te le dire. Voilà.
Voilà, donc on part donc du côté des temples donc de Siem Reap et toujours au Cambodge. Donc voir en fait ces temples perdus dans la nature, à part le grand temple d'Angkor Wat, qui est bondé de touristes. Hein. Je vous préviens tout de suite, hein, si vous voulez y entrer, c'est 1h30 de queue pour aller accéder donc.
Est-ce au que sommet. C'est pas aussi chiant que d'aller à Notre-Dame? Moi, c'est ma référence en matière de tourisme. Le bâtiment il est peut-être magnifique, mais aller à Notre-Dame, moi, quand j'ai des amis qui viennent à Paris et qui disent oh, on veut visiter Notre-Dame, ça me fait suer d'avance parce que bah bon, déjà j'y suis allé 50 millions de fois, mais il y a tellement de touristes que tu peux pas profiter de la sacralité du lieu, quoi.
Alors tu peux pas se profiter de la sacralité du lieu, c'est vrai. Alors moi, j'ai fait mon tourisme. Je l'admets.
Oh bah j'y suis allé. Attends.
J'y suis allé, j'ai vu ce que c'était. C'est vrai que la vue est très très belle, mais c'est vrai qu'on peut pas profiter de la sacralité du lieu. Maintenant, il faut se rappeler que on ne parle pas du temple d'Angkor Wat, mais des temples d'Angkor Wat, puisqu'il y a un ensemble de temples perdus dans la forêt, qui sont recouverts de
végétation,
qui sont très impressionnants. Il y en a énormément, et en une journée, bon, on a clairement pas le temps de tous les faire. Il nous faudrait
une bonne semaine
pour pouvoir tous les faire.
Hein. Ah, moi, j'ai une question à votre honneur pour confirmer à tout le monde qu'on parle bien de la même chose. C'est des espèces de ziggourats, des semi-pyramides à angle droit. Comment on peut décrire?
Bon, je ne saurais pas comment décrire les temples d'Angkor Wat, ils sont tous uniques.
Visuellement, il n'y a pas de...
C'est le temple d'Angkor Wat. Je peux pas,
je
peux pas le décrire. Et en plus, les temples d'Angkor Wat sont vraiment tous uniques dans leur fabrication. Il y en a qui ressemblent à des sortes de pyramides. Il y a le grand temple d'Angkor Wat. Il y a les temples qui sont des amas de pierre. Il y a des temples qui, ils sont tous vraiment différents. Il y a des murailles gigantesques, etc. Et oui, il faudrait 3-4 jours pour tous les visiter vraiment à fond.
Être vraiment à fond. Non.
Mais vous vous sentez vraiment en communion avec le lieu lorsque vous y allez. C'est-à-dire, il n'y a pas de bruit, à part le bruit des feuilles, des animaux. Mmh. Peut-être 2-3 touristes à la rigueur que vous pouvez croiser si vous vous enfoncez vraiment dans les terres, vous en verrez de moins en moins. Mais vous vous sentez vraiment en communion avec le lieu. C'est vraiment impressionnant.
Alors, toujours par rapport à ça, comment ça se fait que dans un rayon aussi concentré, il y ait autant de temples qui ont l'air en plus méga différents, donc j'imagine qu'ils ont été construits au fur et à mesure des années, et qu'il n'y ait rien autour? C'est-à-dire... ce que tu me décris, moi j'ai l'impression que c'est un endroit où on disait voilà, tous les 6 mois on va bâtir un temple à chaque fois, enfin...
Ouais, c'est à peu près ça. Alors la raison pour laquelle j'en ai absolument aucune
idée. Mais enfin voilà. c'est étrange quand même.
C'est vrai. Et blague à part, donc la ville de Siem Reap qui a été là, si je ne dis pas d'erreur, alors là je laisse donc les commentateurs donc me commenter si je dis une erreur, mais il me semble que la ville n'était pas là avant et qu'elle s'est développée grâce au tourisme.
Grâce au tourisme autour de ça, d'accord.
Voilà, et c'est devenu la ville la plus riche techniquement du Cambodge. Puisque tous les touristes souhaitent passer par Siem Reap, qui viennent de Thaïlande ou du Vietnam, pour aller voir les temples d'Angkor Wat. Voilà.
Alors, Cambodge, ça c'est fait.
Ça c'est fait.
Next step.
Maintenant, on va prendre un bus de 6 heures. Et sur ce magnifique bus, nous passons donc en Thaïlande. Et nous nous rendons...
Enfin, quand même.
Et nous nous rendons à la célèbre et légendaire ville de Bangkok.
Ah, là, écoute, je vais mettre un jingle musical. Est-ce que tu connais, il y a un titre de... Comment il s'appelle? Murray Head. Il s'appelle Bangkok.
Je ne connais pas.
C'est un morceau, je te le ferai écouter. Je vais nous le mettre en fond sonore. Alors c'est hyper kitsch, hyper grandiloquent. Voilà, pendant qu'on parle, imagine qu'il y a cette musique. Je pense que je mettrai la version remixée par Steve Vai. Il est un instrumental, comme ça on s'en marrera pas avec les paroles. Oui, et donc la chanson c'est One Night in Bangkok.
Ah bah One Night in Bangkok, j'ai écouté ça.
Ah bah ça fait Six Nights.
Ah ouais, c'est parti.
C'est party.
C'est party. Alors, Bangkok, donc il faut savoir qu'après mon arrivée donc en mini, un mix entre un tuk-tuk et un camion. accroché derrière le camion.
Mais quelle est cette créature?
Ah ouais, non, mais c'est génial. Hein. Enfin, Bangkok, c'est la ville de tous les péchés.
Ah, petite précision pour les gens qui connaissent pas, les tuk-tuks, c'est un hybride entre une moto et une...
cage à lapin.
En fait, c'est ce que vous voyez beaucoup dans les films indiens. C'est quoi? C'est trois roues et deux places, quoi.
Ah... ça dépend des tuk-tuk, parce que j'en ai croisé qui avaient 5 places.
T'as vu des modèles custom?
Ah, il y a des custom. Ah, il y a les custom de tuk-tuk qui sont magnifiques. Oh, ils sont tellement stylés. Et faire des courses de tuk-tuk avec ça, c'est tellement génial.
Alors, pour, si vous voulez voir ce que c'est qu'un tuk-tuk et qu'est-ce qu'on peut faire avec un tuk-tuk, je vous recommande donc notre séance de l'invité sur le film Doom, où on voit au début du film un merveilleux usage de tuk-tuk.
Voilà, vous aurez parfaitement la description de ce qu'on peut faire avec un tuk-tuk.
D'accord.
Et parfaitement réaliste.
Est-ce que ça ne peut pas faire non plus? Donc t'arrives, les tuk-tuk, c'est personnalisé à gogo, et qu'est-ce qui se passe?
Alors, il faut savoir que mon auberge de jeunesse est située donc à Nana Plaza. Alors ceux qui sont déjà allés à Bangkok vont beaucoup rigoler, puisque Nana Plaza, bah, c'est plus ou moins le quartier à prostitution de la ville.
Ah, oh, ça m'étonne que tu sois allé là-bas, dis donc.
Alors, il faut que savoir que mon auberge de jeunesse était exactement située entre un bar à ladyboy et un bar à pute.
Alors, peux-tu faire la différence? Parce que, bon, pute, voilà, ça parle à tout le monde. C'est un peu vulgaire, d'ailleurs. Tu pourrais parler de prostituée, quand même.
Bon, alors, on va parler de prostituée, dans ce cas-là.
Un peu de respect pour la profession. Et puis, alors, ladyboy, bah, c'est un peu la même, de toute façon. Sauf que... c'est ce qu'on appellerait chez nous des travestis,
c'est
ou des chimelles.
Des chimelles, je dirais, hein, plus des chimelles. Et donc, bah, très bien faite, en tout cas. Très difficile de reconnaître une chimelle d'une vraie femme. Et j'ai eu l'occasion donc de m'y confronter donc sur la rue principale de Bangkok, la rue touristique, lorsque je me suis retrouvé derrière une femme magnifique, très belle, avec de très belles formes, et qui a croisé un touriste et qui lui a lâché un magnifique « Hello ». Et à ce moment-là, je me suis mis à marcher très très vite dans la direction opposée et en baissant la tête. Voilà, moment assez gênant de mon voyage.
Alors, on va quand même faire un point transophobie, parce que je ne veux pas laisser sous-entendre qu'on commence à taper, à faire les clichés sur justement voilà, les ladyboys, même si le terme est dans le jargon. Parce que ça reflète quand même, et là on en rigole, on est entre nous, mais c'est pas drôle du tout, tout le côté tourisme sexuel qui gravite autour de ce pays.
J'aurai l'occasion d'en reparler.
Oula, oh, tu me fais tellement peur quand tu dis ça. Ok, alors je te laisse enchaîner, vas-y. Donc,
Alors avant tout, je vais faire un petit point historique. Donc il faut savoir que les ladyboys sont très respectés en Thaïlande.
D'accord.
Donc il faut savoir que lorsqu'un enfant naît, il est donc soit un garçon, soit une femme. Le garçon ira lui travailler dans les champs et la femme, elle, ira faire pourra aller se prostituer pour gagner de l'argent. Mais il faut savoir que la prostitution rapporte plus que de travailler dans
d'accord.
les champs.
C'est hyper réducteur quand même.
C'est hyper réducteur.
Là, tu commences à... Donc, soit t'es un mec, tu vas bosser au champ, soit t'es une meuf et tu te prostitues. C'est hyper... Ça veut dire que toutes les daronnes là-bas...
Alors attention, je fais un rappel historique. Donc, ça veut dire qu'on ne parle pas d'aujourd'hui, mais on parle d'il y a plusieurs dizaines d'années.
Oui, mais ça veut dire que toutes les mamans étaient des prostituées.
Alors ça, j'en sais rien après, hein, mais elles avaient, enfin, beaucoup.
Oh, beaucoup, d'accord. Beaucoup, oui,
voilà.
Non,
voilà. C'est pousser le vice, mais. Bref.
Oui, non, mais c'est aussi parce que je tiens quand même à rassurer nos auditeurs le fait que on n'est pas non plus.
On parle de la campagne, la plus de la campagne. Hein. Bien entendu, pas des villes.
C'est cliché, quand même.
C'est très cliché. Mais voilà, les femmes...
Ah ouais, c'est une réalité.
Voilà. Okay. Mais aujourd'hui, je vous conseille un très bon documentaire, d'ailleurs, qui est passé sur Arte il n'y a pas longtemps, qui parlait des ladyboys, justement, et des spectacles de ladyboys qu'il y avait à Bangkok et dans les différentes villes de Thaïlande. Et donc, il y avait des comités pour se faire reconnaître en tant que ladyboy, etc. Donc, c'était assez complet.
Genre, il y avait la nouvelle star...
La nouvelle star, il me semble qu'il y a une nouvelle star. Je suis pas sûr de ça. Alors, je suis pas sûr de cette information, mais il y a des événements entièrement ladyboy.
Non, mais quand je disais nouvelle star, c'était.
Je me demande si ça n'existe pas.
Tu feras tes devoirs et tu me diras ça.
Et donc voilà. Donc, les ladyboys sont extrêmement respectés puisque techniquement, ce sont des hommes qui ont renoncé à leur condition d'homme pour devenir des femmes et pouvoir. Potentiellement aller se prostituer ou bien elles se sentaient pas bien dans leur corps, etc. Et elles sont extrêmement respectées et il est très mal vu de se moquer d'une ladyboy en Thaïlande.
Alors, ça c'est assez intéressant, mais du coup, ça soulève encore plus un paradoxe pour moi, c'est que Par contre, les meufs, on s'en bat la race, si j'ai bien compris.
Oh, si tu savais ce que j'ai vu. Hein.
Non, mais...
Ouais.
C'est-à-dire qu'une meuf, de toute façon, c'est une meuf, donc ça vaut que dalle, et on la respecte pas encore plus si c'est une prostituée.
Ça dépend, en France, c'est...
Aujourd'hui... Non, je parle pas, moi, je parle là-bas, de, par rapport à ce que tu me dis, où tu dis, les ladyboys, c'est super respecté. Moi, de ce que j'entends, et c'est peut-être du cliché, c'est pour ça que je te demande à toi qui étais là-bas, est-ce qu'il y a cette différence-là, au point que, ouais, ah, t'es un mec, mais t'as accepté de devenir une meuf, franchement, c'est trop stylé, on te respecte. Par contre, toi, t'es une meuf de base, nique-toi, on s'en fout. Est-ce qu'il y a ça ?
Non, il n'y a pas ça.
D'accord.
Il n'y a pas ça.
Mais on ne respecte pas les femmes quand même.
On les respecte.
Ouais, vite fait.
On est en Asie, j'ai envie de dire, on est en Asie du Sud-Est. Les regards sont pesants et c'est assez compliqué quand on est une femme seule. Donc, pour en revenir à ça, ouais, donc, comment on a dérivé sur ça ? Ah oui, on parlait du bar à Ladyboy. Oui, donc cette conversation va être géniale. Vas-y, on va repartir. Donc voilà, donc j'ai eu l'occasion de voyager un petit peu donc dans les différents quartiers de Bangkok. Alors je vais te poser une question. Par quoi est-ce que tu veux commencer ? Est-ce que tu veux commencer par les quartiers de prostitution, les matchs de coq ou bien les matchs de boxe thaï ?
Je pense qu'on va sombrer petit à petit. On va commencer avec la boxe thaï.
Ok, donc la boxe thaï, hein, sport, voilà. On va dire
sport national.
Sport national. Hein, y a des grandes arènes de boxe thaï qui sont organisées donc. En ville et dans le pays.
C'est Paris à gogo, j'imagine.
De quoi ?
C'est des Paris à gogo.
C'est des Paris à gogo, ça c'est magnifique par contre, parce que lorsqu'on entre dans l'arène, on sent tout de suite qu'on est un étranger, donc on est mis dans le coin des étrangers pour regarder. Et puis il y a tous les Thaïlandais qui sont répartis dans les différentes zones de vue, et en fait ils font des paris comme ça sur leur boxeur, sur leur champion.
Le coin des étrangers, c'est une bonne place ou c'est une mauvaise place ?
C'est une place que... Bah, en fait l'arène est vraiment c'est vraiment un cercle, un amphithéâtre en cercle. En fait, c'est un endroit où les gens vont pas, et donc du coup, ils nous mettent tous là.
D'accord, donc c'est une place un peu au rabais.
Oui, c'est une place au rabais, mais en fait, elle est au même niveau que... c'est juste qu'une partie de l'amphithéâtre est vide, et du coup, les Thaïlandais ne veulent pas qu'on se mélange avec les...
Avec les autochtones.
Voilà.
Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont peur qu'il y ait des embrouilles
ou... Ah, j'en sais rien, hein. Ils nous ont juste envoyés là-bas, c'est tout.
Mais toi qui étais japonais, qu'est-ce qui s'est...
Bon, ils m'ont envoyé là-bas au même titre que tout le monde. Hein.
D'accord.
Bon, au début, c'était cool parce que je gueulais avec tout le monde. Et puis, y a ma pote française qui m'a rejoint, que j'avais rencontré donc, en Thaïlande. Et puis ensuite, on s'est fait dégager, on s'est fait mettre un petit peu plus loin.
Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Donc, une femme dans des trucs de combat, ça gêne pas là-bas ?
Ah, ça se voit pas.
Ça se voit pas, c'est-à-dire ?
Je crois que c'était potentiellement l'une des seules femmes qui avait... À part les hôtesses qui servaient des hôtes.
Bon, mais je compte pas, mais le staff, je compte pas. Mais donc une femme, c'est parce que c'est pas autorisé ou c'est parce que il y en a pas.
C'est autorisé, mais il y en a pas.
D'accord.
Il y en a aucune.
C'est vraiment un truc de bonhomme.
Voilà. Tu vois tous les mecs qui sont avec leur bière, le hot dog, avec leur papier en train de miser, en train de gueuler de toute leur force sur leurs combattants.
D'accord.
Voilà. Bon, et ça alors, c'est. Ouais.
Est-ce que à un moment donné, tu t'es levé pour prendre le parti d'un combattant et tu as crié « Netsuko, Netsuko ».
Alors, il faut que les gens comprennent la référence. Je
moi, bah, je est-ce pas... que toi, tu la comprends ?
Bah, moi, je ne l'ai pas compris.
Non, là, c'est toujours Van Damme, c'est toujours kickboxer. Et en fait, dans le film, quand Jean-Claude se bat, évidemment, il prend... au début, il est méprisé puisque c'est un blanc. Et puis, au final, le public prend parti pour lui puisque c'est vraiment le meilleur. C'est normal, c'est Jean-Claude. Et donc, il y a sa copine dans le film qui incite la foule à l'acclamer en disant « Netsuko, Netsuko », et ça veut dire genre « le guerrier blanc », tu vois, une connerie comme ça. Et donc, voilà pourquoi je pose la question et pourquoi je nous perds 5 minutes sur cette connerie. Mais je voulais encore parler de Jean-Claude. Jean-Claude, je t'aime. Jean-Claude, je t'adore. Toi et moi, c'est pour toujours. Sois mon papa. Allez, vas-y, enchaîne.
Je sais pas enchaîner. Alors...
Donc il y a la bagarre.
Donc il y a la bagarre, voilà, la bagarre se termine. C'est quoi ? C'est 10$ pour 3 heures de match.
Oh la vache, c'est super rentable.
Il y a 9 matchs, il me semble.
Bah 3 heures, ouais.
Ouais, 3 heures de match.
À mon avis, les mecs, ils doivent se mettre aussi bien. Alors, est-ce qu'ils combattent soft ou est-ce que vraiment ils se mettent des grosses races ?
Oh, ils se mettent des grosses races. Oh, ils sont. Si l'arène n'est pas en. Il n'y a pas du sang sur l'arène à la fin.
C'est
pas
normal, quoi.
Ouais, non, c'est pas une. Ouais, c'est pas une arène.
Et est-ce que. Bon, c'est pas des combats à mort, j'imagine.
C'est pas des combats à mort.
Mais est-ce que. Ils font défiler. Genre, il y a un programme avec. Oh putain, à telle heure, il y a le combat de machin.
Exactement.
Et du coup, ça crée plus de hype et il y a des combats qui sont plus.
Exactement. Il y a des combats qui sont extrêmement hypés, d'autres qui le sont moins. Et des challengers. des classiques. En fait, là, on est vraiment dans du combat qui va être... c'est des professionnels qui se battent pour gagner des points.
C'est des écoles ou c'est des écuries perso?
Je crois que ce sont des écuries.
D'accord.
Il me semble que ce sont des écuries. Donc voilà, ça, ce sont les matchs de boxe thaï professionnels.
Et alors, si j'ai une dernière question par rapport à ça, oui. Est-ce qu'il y a des catégories ou est-ce que, de toute façon, c'est tous des petits tailles, donc ils sont tous au même gabarit et il n'y a pas de classement?
Je crois qu'ils sont tous au même gabarit. Je ne veux pas avancer de bêtises, mais je crois qu'ils sont tous au même gabarit.
Parce que t'imagines, si moi je m'entraîne et que je vais là-bas, forcément, ça va être un peu la misère pour eux s'ils sont gaulés comme toi, quoi.
Ah bah, ils vont te casser la gueule. Hein,
non, mais ils me casseront la gueule parce que j'ai pas la technique et je suis pas entraîné, je suis trop vieux, mais...
Non, mais je crois pas qu'il y a...
Imagine un sportif occidental qui se pointe, un mec qui fait du MMA, par exemple, qui est entraîné et tout, hein, pas un mec au pif comme moi, mais un mec qui vient... Déjà, est-ce qu'il serait accepté? Est-ce qu'il y a des blancs qui combattent?
Non, parce qu'il me semble qu'il faut qu'ils entrent dans les écuries avant de pouvoir entrer. D'accord. Dans les...
Mais
dans
les combien même, un blanc, il rentre dans une écurie, c'est jouable ça?
Je ne sais pas.
T'as pas vu,
je n'ai pas eu assez d'informations sur ça. Je n'ai pas vu de blanc, je n'ai vu que des Thaïlandais se battre.
D'accord.
Et puis après, si tu veux vraiment te battre en tant que blanc, tu peux toujours aller faire des matchs de boxe thaï dans la rue.
Ça c'est bon,
qui
enchaîne.
Qui sont plus rentables, mais qui sont beaucoup plus massacreurs.
Beaucoup plus dangereux, ouais.
Ah bah là, il n'y a pas de gants.
Alors, c'est du coup... Mais il y a des gants...
Il y a des gants.
Oh, je suis très déçu, moi, qui pensais que c'était à l'ancienne avec du verre pilé.
Non. Il y a des gants, c'est réglementé, il y a un arbitre.
Je regarde beaucoup trop de films. Et donc, tu me dis, il y a du street fight.
Il y a du street fight. Alors là, par contre, il faut creuser un petit peu plus dans les rues de Bangkok pour pouvoir les trouver. Mais il y a du street fight, c'est des arènes, pareil, des combats quasiment à main nue, ils ont juste des bandeaux autour des mains pour
les mains et
pour protéger. Et là, c'est beaucoup plus sanglant en fait. Hein. Là,
mais toi, t'en as vu ou c'est parce qu'on t'a envoyé un lien YouTube?
Non, je les ai vraiment vus ceux-là. Mais alors, par contre, je me mettais pas au premier rang.
Oui, c'est un coup perdu, il est pas perdu pour tout le monde.
Il est pas perdu pour tout le monde et puis les effusions de sang dans la gueule, c'est pas toujours cool quoi.
Ah bah, une bonne petite hépatite comme ça, oui.
Voilà. Donc, c'est le genre de truc qu'on peut voir donc dans les rues à Bangkok. Il faut les trouver aussi.
T'es pas en train de te balader avec tes courses dans les mains et puis d'un seul coup tu tournes et puis boum, il y a 50 mecs qui sont en train d'entourer deux gars en train de se foutre sur la
gueule. Voilà, c'est des trucs où il faut plus ou moins être invité, il faut être assez discret. Bon. Ce ne sont pas des matchs réglementés qui sont techniquement interdits par la police, etc.
J'ai demandé, les flics ils s'en battent la race ou ils chassent?
Non, c'est interdit, c'est chassé.
D'accord, donc toi tu t'es vraiment encanaillé quand t'as été voir ça.
J'ai fait pas mal de choses à Bangkok.
Oui, alors, moi je ne veux pas donner de preuves à la police de tes méfaits, alors stop.
Puis après il y a les combats de coq.
Alors justement, voilà, transition, on a fait les humains, maintenant on va faire les animaux.
Donc voilà, alors les combats de coq c'est aussi dur à trouver en fait. Ce sont des combats où on fait rentrer des coqs. Et donc,
d'où le nom.
Voilà, des combats de coq, exactement. Et donc au bout des pattes des coqs, il y a des lames aiguisées.
Sérieux?
Et donc en gros, les combats de coq s'organisent...
Non mais en fait j'imagine le coq Wolverine à qui on met les grosses griffes et genre le coq qui est là en train de les frotter l'une contre l'autre en attendant son adversaire.
Mais si tu veux savoir, il y a des coqs qui sont légendaires dans les combats de coqs.
D'accord, c'est comme des Pokémon shiny quoi.
Voilà, c'est des Pokémon. C'est des coqs qui ont leur réputation et qui ont des titres. Et des coqs qui sont peut-être parfois mieux titrés que les champions de boxe thaï.
And now, introducing Robbie the Rooster.
On était à peu près à ça. Tu le traduis en thaïlandais.
Et alors, je voulais pas faire l'accent thaï parce que j'allais me moquer et c'est pas bien.
Et tu vois, c'est pareil, c'est un massacre. Hein.
Bah ouais, parce que s'ils sont équipés de lames, c'est vénère quoi.
C'est ultra vénère.
C'est super vénère.
Et là, pareil, ça gueule dans tous les sens pour parier sur le meilleur coq. C'est génial.
Ah oui, hein, nos amis protecteurs des animaux vont adorer ce segment-là de l'émission.
Bah si ils veulent, ils peuvent se dire que j'ai décapité des coqs au Vietnam pour les manger, mais...
Oui, non mais ça, pour manger, tuer un animal pour le manger, bon, on peut penser ce qu'on veut, du véganisme et tout ça, mais au moins il y a une finalité. Là c'est vraiment pour le sport, et là c'est quand même un peu... Et puis c'est cruel.
Ah c'est cruel, ouais.
Alors, l'appareil, est-ce qu'il y a des écuries ou des poulaillers, je sais pas comment on dit du tout.
Alors là, j'en sais rien du tout. Je t'avoue, j'étais dans le coin de la salle et je regardais en scred.
Parce que peut-être que c'est sponsorisé par les volailles.
Ah là, c'est du bio, hein.
Ouais, j'imagine. Et est-ce qu'il y a de l'élevage de champions?
J'en sais rien.
Oh, mais tu connais pas ton sujet, t'as pas creusé.
Ah bah.
Voilà.
Déjà, je suis content d'avoir vu un match de. Parce que c'est très dur à trouver.
Très dur à trouver, et puis ouais, peut-être d'y rentrer, il laisse pas n'importe qui. D'accord. Alors, vu qu'on a sombré et que t'as pas creusé ton sujet, là, je veux te parler d'un truc où je suis sûr que tu as exploré vraiment toutes les possibilités autour de ça.
Arrête, je vais encore avoir une sale réputation.
C'est toi qui te la crée, mon petit chou.
C'est faux.
C'est bien sûr la prostitution, donc. Alors, c'est le moment qu'on fait. Attendez, on va allumer la lumière rouge. Attention, warning. Je pense que on va faire cut. Hein, on va faire une petite transition, troisième partie de l'émission. Parce que voilà, cher public, la troisième partie, il va y avoir du sale. Il va y avoir du très sale. Il va y avoir du coquinou. Voilà, restez avec nous pour cette troisième partie où on parlera donc de la Thaïlande interdite, telle qu'on veut l'avoir ou telle qu'on pense qu'on va l'avoir. On vous retrouve tout de suite. Nous revoilà pour la troisième partie de cette interview fleuve qui nous a amené aux quatre coins de l'Asie du Sud-Est. Et donc là, on a sombré, hein. On est allé de plus en plus loin dans les vicissitudes et on touche le fond. Donc nous sommes à Bangkok, Nana Plaza, Soi Cowboy,
oui.
Et là donc, c'est les baraputes.
Alors, on a dit à prostituer, hein, puisque tu dois être logique avec ton raisonnement.
Mais on va garder. Je vais être cohérent. J'assume, je voulais faire dans le cliché, voilà.
Voilà.
J'assume aussi ça.
Très bien. Alors, parlons un petit peu donc de la place que j'ai le plus visitée, à mon avis, hein, qui est Nana Plaza, en effet. Enfin, vous savez, on parle beaucoup de tourisme sexuel et de choses dégueulasses qui se passent à Bangkok, mais je voulais voir si c'était vrai.
Toi, tu as des curiosités, des fois.
Bah ouais, je voulais voir si c'était vrai, on nous en parle tout le temps, bien sûr.
Non mais, le côté, voir si c'est vrai, je sais pas, c'est par exemple, tiens, il paraît qu'il y a un pervers nécrophile là, j'aurais pas envie d'aller voir si c'est vrai, quoi.
Je sais pas, moi j'ai appelé mes parents, j'ai fait, papa, maman, ce soir je vais au bar à pute de Bangkok, salut.
Ils devaient être ravis.
Le lendemain, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, tu t'es protégé? Moi j'ai pas couché. Très bien, salut.
Ah, le mensonge.
C'est pas un mensonge.
Je te laisse seul avec ta conscience.
Voilà, ma conscience me dit que c'est pas un mensonge et ce n'est pas un mensonge. Et ça me va très bien comme ça.
Vas-y, c'est pas grave.
Donc, on va commencer par Nana Plaza. Donc, Nana Plaza, qu'est-ce que c'est ?
C'est là où il y a ton auberge, tu m'as dit.
Oui, déjà. C'est vrai que techniquement, j'étais à deux rues de, voilà, du centre, d'un centre.
Du centre névralgique de la prostitution.
Ah bah, carrément. Est-ce que tu t'imagines ?
Ouf.
On va dire.
Tu sais que tu fais des gestes là qui sont extrêmement équivoques. Hein, quand...
Donc, essaie de t'imaginer.
Oui. C'est énorme. Hein,
oui, c'est énorme.
Tu fais des gestes avec les mains, je suis troublé.
C'est une place. Ouais. C'est ouais, un lycée.
Ah oui, mais, ah oui, c'est grand quand même.
Sur trois étages.
Oui. Ah oui, c'est un grand lycée en plus.
Ouais. Avec ouais, des petits bars au rez-de-chaussée, des bars à prostituées, bien entendu.
Ah, c'est-à-dire, tu peux commander au bar
ta prostituée. Tu peux complètement commander au bar, et puis t'as des hôtesses qui viennent te voir de temps en temps, qui t'as des prostituées qui t'affriolent, enfin bref, plein de trucs. Et donc, le supermarché, si je vais l'appeler comme ça, le supermarché
ouais.
Se divise en trois étages.
Ouais.
Donc au rez-de-chaussée, vous avez les prostituées. Au deuxième étage, vous avez les ladyboys.
Uh-huh.
Et au troisième étage... Bah, c'est mixte.
J'aime bien comment tu dis ça, c'est mixte.
Bah ouais, on sait jamais sur quoi tomber.
Donc en fait, tu commences avec. Tu choisis ton parfum entre le rez-de-chaussée et le premier, et le dernier étage, c'est roulette russe.
C'est à peu près ça. Bah, est-ce que je t'ai déjà raconté la fois où je me suis fait fouetter le cul par un ladyboy?
Vas-y, alors j'ai envie de découvrir.
Alors c'est tout con, c'était au deuxième étage, donc j'étais donc au niveau.
Donc tu savais ouais, à quoi t'avais à faire.
Et ben en fait, je me promenais sur la plateforme pour voir un petit peu ce qu'il y avait.
Ouais.
Et il y avait à un moment, il y avait un bar où il y avait des ladyboys en extérieur.
Et donc, en extérieur.
Ouais, elles étaient à l'extérieur du bar et elles essayaient.
Ah d'accord. Prendre... Non, je croyais que tu parlais à l'extérieur du bâtiment, ce qui au premier étage est compliqué.
Ouais. Mais en fait, il y avait une, voilà, il y avait une, un chemin pour y aller.
D'accord.
Et en fait, donc, elles avaient des martinets.
Ouais.
Et donc, lorsque tu passais devant ce bar, et ben,
t'as droit à un petit coup de cravache dans le cul, quoi.
Petit coup de cravache dans le cul. Sauf que le problème, c'est que quand t'arrives au bout de la plateforme, tu remarques qu'il n'y a pas d'escalier pour redescendre.
Donc t'es obligé de refaire le tour
pour repasser devant le bar.
Et donc rebelote un petit coup.
Je vous promets, j'ai fait qu'un seul aller-retour. J'en ai pas abusé.
J'aime bien. J'ai pas abusé. Hein. Je me suis un peu fait fouetter le cul, mais quand même.
Voilà. Donc ensuite, je suis retourné. Donc une fois que j'avais évité les trois étages, je suis retourné au rez-de-chaussée. Et donc je me suis dit, bon, on est à Bangkok. Ben, je vais rentrer. Hein. Écoute, on va voir à quoi ça ressemble. Donc au début, tu sais pas trop sur lequel tu vas tomber, tu rentres dans un hopif et puis tu fais bon bah on va voir, hein, écoute. Hein. Donc tu rentres et c'est là que tu te rends compte qu'on n'a pas terminé l'esclavage humain. Alors je t'explique à quoi ça ressemble pour la majorité des bars. Donc tu as une sorte de petit amphithéâtre où les clients sont accueillis.
Okay.
Donc là tu t'installes, tu te poses, l'hôtesse vient te voir, elle te propose des bières, etc. Et en face de toi tu as des filles. Enfin des filles. Enfin, je suis désolé, mais je suis tombé sur un... C'était un ladyboy, je suis désolé. Il avait le corps d'un homme, le visage d'un homme. Il portait une perruque. C'est juste qu'on lui avait coupé la bite, quoi. C'est tout. Et donc, voilà, tu tombes sur ça. Et en fait, il faut que tu te dises que donc, les filles qui sont habillées donc, en sous-vêtements voilà, sexy, donc, portent toutes des numéros. Et l'hôtesse porte elle-même un numéro.
Parce qu'elle est comprise dans la
carte. Voilà.
Elle est au menu.
Elle est au menu. Et du coup, bah.
Je suis assez atterré moi-même de dire cette phrase.
C'est ça, voilà. Et du coup, bah, lorsque t'es assis là, et bah, tu peux aller demander le numéro 21 et le numéro 42. Et du coup, t'as deux filles qui arrivent vers toi.
Alors, sans aller jusqu'à chercher des excuses et tout, est-ce que c'est pas surtout parce que, avec des chiffres, c'est quand même un peu plus pratique pour les gens qui parlent pas la langue?
Ah, c'est complètement plus pratique. Bon. C'est complètement plus pratique. Et du coup, t'as des rotations de filles, en fait. Enfin, t'as un groupe de filles habillées en sous-vêtements blancs et t'as un groupe de filles habillées en sous-vêtements noirs et elles tournent toute la soirée. Et en fait, les hôtesses, quand je leur ai posé la question, mais pourquoi, enfin... Ils m'ont dit, bah, il vaut mieux être tôt le soir, comme ça, bah, elle n'a pas été déjà prise par un client parce que, voilà, les tarifs, c'est 80€ les 2 heures et on te fait 50% de réduction sur la deuxième.
D'accord.
Et après, T'as l'occasion de voir au deuxième étage, t'as un hôtel avec les prix, etc. Mmh. C'est 80€ les 2 heures, enfin bref.
T'as tous les hôtels. Attends, tout est à 80€?
Tout est à 80€. Sauf si tu demandes une pipe, c'est moins cher.
Je fume pas, donc ça va.
Ouais, ceci n'est pas une pipe. C'est un tournevis.
Magritte.
Mais voilà, donc en gros... Bah, tu te retrouves là-dedans, et puis bah, t'as des filles qui viennent te voir de temps en temps, te dire bonjour, etc. Elles se présentent, elles disent un peu ce qu'elles font, etc. Puis après, elles essaient de te convaincre de passer la nuit avec.
Elles parlent anglais, je suppose ?
Oh, elles parlent un peu anglais, ça se débrouille, ça va. Bon, généralement, elles te parlent en signe, hein, voilà. Hein,
elles se débrouillent. Ne faites pas de gestes, ne fais pas de gestes.
Ouais.
Je remarque quand même que. On parle de trucs, on fait genre on est cool avec ça, mais pas tellement. Enfin, bah,
je vais continuer un petit peu mon histoire. Je vais raconter la fois où ça m'a vraiment dégoûté. Donc j'ai continué
la visite
de bar de prostituée en bar de prostituée.
Et donc j'ai juste consommé au bar, quoi.
Ouais, j'ai juste pris des bières, quelques shots de tequila, c'était marrant, voilà. Et à un moment j'arrive entre deux bars à prostituer et donc je sais pas lequel choisir. Et du coup, il y avait une hôtesse qui faisait des signes en disant « Viens, viens !» Et du coup, moi, je savais pas lequel choisir. Et du coup, j'ai joué à « Plouf, plouf, ce sera toi que je prendrai. » Je suis rentré dans le bar, voilà, qui a été désigné par ce jeu débile. Et du coup, je suis rentré dans ce bar, il y avait quasiment personne. Du coup, je me suis assis sur un siège. Il y avait quoi, 3-4 clients maximum. Puis là, j'ai vu que le bar était un petit peu en chien, parce que je me suis retrouvé avec 3 filles autour de moi, mais plus vite que la vitesse... J'ai jamais vu des filles descendre de l'estrade aussi vite pour venir s'asseoir à côté de moi.
Ah, c'est ton charme, évident.
Bah ouais, bien sûr, c'est mon argent.
Oh non, alors là, tu les accuseras d'être vénales, je pense que...
Non, du tout, c'était la numéro 3, la numéro 7 et la numéro 15, je m'en rappelle encore.
Il se rappelle encore
des numéros. Ouais, je me rappelle que la numéro 3 était à ma gauche, la 7 était sur mes genoux et la 15 était à ma droite.
Je sais même pas pourquoi je rigole, en fait. C'est terrible ce que tu racontes.
Ouais, c'est absolument terrible.
Et en même temps, je crois que c'est le malaise qui me fait...
Ouais, bon, bah, du coup, bah, je me suis mis, bon, bah, vas-y, je commande des shots de tequila, hein. De toute façon,
aussi, je suis là pour me mettre bien.
Je suis là pour boire, bah, je vais boire, écoute, hein, ça va être marrant. Les filles, vous voulez des shots de tequila aussi? Allez.
C'est ma tournée,
j'ai payé une tournée de shots de tequila, voilà, c'était marrant, on a bien rigolé. Et puis alors là, tu vois, c'est le moment où les filles commencent à te toucher. Mmh. Et là, je pense que c'est l'un des meilleurs entraînements que j'ai jamais eu de toute ma vie au niveau force mentale. Parce qu'il faut s'imaginer trois paires de mains qui essaient de vous caresser, d'ouvrir votre chemise. Voilà, ça fait six mains. Qui essaient d'ouvrir votre chemise, de vous caresser, etc. Et toi, t'es en mode... C'était pas que t'es gêné, mais c'est que t'essaies de résister en mode « Je sais ce que vous voulez faire, mais je vais résister, je vais continuer à résister. » Et du coup, tu résistes, et puis au bout d'un moment, tu fais « Bon, bah en fait, je vais y aller. » Voilà, forcément, les filles, elles te laissent pas partir. Hein. T'es un client, il y en a pas beaucoup dans le bar, elles essaient de te garder. Et du coup, voilà, t'es coincé, etc. Tu dis « Bon, bah je vais reprendre des shots de tequila. » Tu reprends des shots de tequila. Voilà. Puis après, tu payes des shots de tequila, et puis les filles, bah, elles trouvent rien de mieux que te rouler une pelle en signe d'adieu. Et tu continues ta volée vers... Alors, je tiens à préciser à tous les auditeurs qui m'écoutent que j'ai fait mes tests en rentrant en France et que je suis négatif partout. J'ai juste un peu de triglycérides parce que j'ai trop mangé McDo avant à Moscou, mais c'est tout. Voilà. Donc, au pire, vous aurez un mec qui a un peu de cholestérol, mais c'est pas grave.
Alors, moi, je tiens à dire que pour un mec qui est censé n'avoir rien fait, normalement, les tests, c'était une rigolade. Hein.
Ah bah, c'était une rigolade, la preuve, j'avais rien. Tout va bien.
Bah, voilà.
Et donc je continue dans le bar suivant. Et là, donc je rencontre une hôtesse qui était habillée donc en infirmière, celle-ci, je crois.
Ah, donc il y avait des trucs thématiques un peu.
Infirmière, lapine, médecin, tout, il y avait tout ce que tu voulais, vraiment tout. Et donc je m'assois à ce bar. Il y avait des filles qui étaient en train de danser à la pole dance en face de moi. Mm-hmm. Donc la fille, elle m'accueille, etc. Elle me demande si je voulais boire un truc. Bah moi, je dis, ouais, je vais commander une bière. Donc, je commande une bière, etc. Elle essaie de me dire, ouais, tu vois, elle là-bas, elle est mignonne, etc. Elle là-bas, tu pourrais coucher avec, etc. Mmh. Et moi, je dis, non, je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour rigoler, etc. Et boire un peu d'alcool, et puis c'est marrant, tu vois. Et donc là, elle me regarde, elle va appeler sa patronne. La patronne revient avec deux shots. Elle donne trois shots aux filles qui sont sur la plateforme.
Ah, attends, elle vient avec deux shots, mais elle en donne trois aux filles. Comment c'est possible, ça?
En fait, alors, elle nous en donne deux à nous.
Ah, d'accord.
Et trois aux filles sur la plateforme.
Ok.
Et donc, et ben là, elle me regarde, elle appelle ses copines et elle dit venez, venez, venez. Donc elle reste sur la plateforme. Et là, on commence à jouer à Shifumi. Et donc, en gros, ceux qui perdent, bah en fait, c'est un Shifumi éliminatoire. Hein. Et donc, ceux qui perdent, et ben c'est ceux qui boivent. Et du coup, on servait des shots de bière et des shots de tequila. Et du coup, j'ai passé, je crois, facilement 45 minutes à jouer au Shifumi avec des filles qui étaient en sous-vêtements sexy sur les pole dance et l'infirmière à côté de moi qui était en train de jouer à Shifumi.
Super.
Et vu qu'elle parlait pas très bien anglais, en fait, elle s'exprimait avec des mouvements, et quand elle perdait, elle faisait le signe des ciseaux sur ma bite. C'était.
Ah oh, bah c'est affectueux comme signe
ouais,
là-bas.
Ouais, c'était hein. Marrant en fait.
Ça veut dire devait te couper ta bite.
C'est ça, c'est très raciste aussi.
Voilà, c'est le seul accent raciste que je prendrai ce soir, c'est garanti.
Voilà, donc je me suis bien amusé, j'ai bien rigolé avec les filles, etc. C'était vraiment marrant. Et puis est venu le terrible moment où un quinquagénaire, donc un mec un petit peu gros avec des cheveux blancs.
Oui, ben ça va, un petit peu gros les cheveux blancs, ça peut arriver à tout le monde, même au meilleur. Donc enchaîne, ouais.
Et donc il entre, il y avait eu une rotation des filles qui dansaient sur la pole dance. Et puis lui, sans pression, il commence à caresser une fille qui devait avoir 17 ans sur la piste de danse. Mm-hmm. Et c'est le moment où j'ai été vraiment dégoûté parce que le mec avait aucun respect pour la fille. Aucun, vraiment. Alors que, bon, j'avoue, j'allais dans ces genres d'endroits, mais c'était toujours en rigolade.
Oui, alors, tu allais quand même pour t'encanailler.
Ouais.
Faut pas faire non plus le
petit
sein, mais t'étais pas non plus dans l'idée, je vais exploiter humainement.
Mais j'étais dans le respect, dans le respect de la personne qui m'accueillait.
Dans le respect de l'individu.
Dans le respect de l'individu. Et de voir ce mec tripoter une fille comme ça, de mineur. Ça m'a foutu la gerbe et je suis sorti et je suis jamais retourné là-bas.
Alors finalement, c'est très moral ce que tu nous racontes comme histoire. Moral dans le sens noble du terme. Parce que, tu vois, j'en parlais au début, on en rigole, mais c'est pas du tout un sujet drôle. Et on a tendance à... Justement, avec ce côté, c'est un autre pays, oui, mais c'est leur culture, c'est machin, le délire des ladyboys. En fait, le fait de créer un jargon autour de ça, ça diminue la réalité de ce que c'est. Et moi, c'est pour ça que je n'aime pas dire pute ou autre, déjà pour le côté un peu agressif du terme, mais parce que ça nous enlève de la tête que c'est de la prostitution, qu'en soi, c'est souvent des trucs de réseau mafieux.
C'est ça.
Il y a des grandes questions là-dessus où je pense que même moi, moralement, je ne sais pas encore où je me situe sur le... par exemple, en France, je sais qu'il y a ce qu'on appellerait des indépendantes, des prostituées, enfin même des hommes d'ailleurs, qui font ça de leur plein gré, qui pour eux c'est un mode de vie. Voilà, je discute pas, j'ai rien contre le fait que ces gens fassent ça. Après, je me verrais pas micheton malgré tout.
Voilà. Mais voilà, cette partie, c'était surtout pour dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont à Bangkok et qui vont en Thaïlande, de manière générale, pour le tourisme sexuel.
Ah, mais c'est des gens qui vont à Disneyland.
Voilà, c'est ça. Et moi, pour ma part, quand je vais visiter un pays ou quand je vais découvrir la culture, c'est pour découvrir les gens qui y habitent, etc., les rites et les traditions, et essayer, pour moi, en tout cas, mon objectif, c'est de faire tomber, justement, ces fameux stéréotypes. Mm-hmm. Malheureusement, là, j'ai pu que les infirmer. Donc,
les confirmer, tu veux dire.
Les confirmer. Infirmer, je ne sais pas si ça se dit.
Infirmer, c'est quand tu contredis un...
Ah oui, d'accord.
Je confirme ou j'infirme.
Bon, on va la refaire.
Non, vas-y, c'est pas grave.
Donc, lorsque je vais dans un pays étranger, en fait, c'est vraiment pour voir, donc, découvrir les cultures, c'est pour découvrir les gens qui y habitent, leurs rites, leurs mœurs, et confirmer ou infirmer, donc, les différentes idées et stéréotypes surtout qu'on peut se faire de ce pays. Et malheureusement, je n'ai pas pu infirmer le fait que oui, il y a beaucoup de prostitution aujourd'hui, donc à Bangkok et même de manière générale en Thaïlande, et que c'est un véritable réseau et qui est très important dans la ville. Et vraiment ce côté, vraiment on a l'impression que c'est de l'esclavage. Enfin, c'est le ressenti que j'ai eu en allant là-bas. Alors oui, les filles jouent sur les plus bas instincts de l'homme, etc., etc. On ne sait pas vraiment, mais
Ouais. D'un autre côté, elles jouent sur. Elles ont peut-être pas trop le choix non plus.
Elles ont peut-être pas trop le choix non plus, exactement.
Enfin, ça, tu vois, c'est un discours dont je me méfie, pas par rapport à comment tu le dis, mais parce que je l'ai déjà entendu de la part d'autres personnes. Et limite, t'as l'impression, oh, moi, écoute, j'y suis allé innocemment, c'est elle qui m'a allumé, machin. Mais niquez-vous, les gars. Enfin, quand vous allez à Nana Plaza, vous savez où vous allez. Vous savez que c'est parce que il y a des bars à putes partout et que vous avez envie de vous faire astiquer le biscuit pour pas cher. Et que vous vous dites c'est loin, les règles ne s'appliquent plus et je peux me mettre bien discrètement et ma nana elle est pas là donc elle le sait pas, mais ça change pas que c'est pas un crime sans victime et c'est un crime, enfin tel que c'est fait là. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je juge pas le principe de la prostitution en soi parce que c'est compliqué comme sujet, mais là de ce que tu m'as décrit, là y a aucun doute possible. C'est un truc mafieux d'exploitation humaine et nous nous engageons sur Top 5 à conspuer ce genre de pratique. Voilà, c'est
dit. Et je m'engage également sur What the Fuck, donc ma chaîne Facebook, à conspuer ce type de pratique.
Oh là, oh, qu'est-ce qu'on est courageux, dis donc.
Voilà.
Ah vraiment, ah, je trouve qu'on est d'une force morale.
Non mais je le répète pour ceux qui n'auraient pas compris ou ceux qui voudraient en rire, je voulais vraiment aller à cet endroit pour voir si les légendes qu'on raconte sur Bangkok, parce que
oui, savez, si c'était pas exagéré, si c'était pas du cliché.
Voilà, et ça n'est pas exagéré. Au contraire, je pense que c'est même pire que ce qu'on peut penser. Mm-hmm. Et voilà, c'était une expérience d'y aller. J'en tire des conclusions qui sont que, je vais pas vous faire la traditionnelle, la prostitution, c'est mal, etc. Le pays le vit de telle manière que, c'est un centre qui attire beaucoup de monde, qui est pas même touristique en fait. Donc,
la question. Cash.
Oui.
Est-ce que sans ça, les gens iraient en Thaïlande selon toi ?
Moi, je dirais que oui. Je dirais que la Thaïlande attire énormément de par ses temples, de par ses paysages, de par sa culture, de par je crois que c'est l'une des destinations les plus touristiques du monde même. Hein.
Ouais, mais est-ce que le côté tourisme n'est pas avant tout tu vois, c'est ça, c'est parce que c'est un autre problème quand on essaie de combattre ce genre de truc, c'est que les gens disent « Ok, vous nous dites on arrête la prostitution, mais du coup le pays meurt. » Et c'est une réalité où des fois tu te dis le problème est très compliqué.
Le problème est très compliqué et je dois vous avouer que je ne sais pas si le pays serait toujours aussi touristique sans ces fameux bars. Puisque là on a parlé de Bangkok, mais il y a de très nombreuses villes.
Oui, il y a des petits bleds où c'est encore pire parce qu'il y a encore moins de police. Et...
Voilà, donc je serais incapable de le dire.
On finit sur une note dramatique, ça n'est pas bon. Oui. Changeons de pays.
Changeons de pays, vite. De toute façon, quand on finit sur une note dramatique, il faut changer de pays. Où allons-nous maintenant ?
Ah bah, c'est toi qui as fait le voyage.
D'accord, mais est-ce que tu préfères qu'on aille direct, qu'on aille en Corée du Sud pour parler de ce que j'ai fait là-bas ou bien...
Oh bah, petit détour, allez, vas-y, go la Corée.
Allons en Corée, très bien. Alors, on repart en Asie du Nord, comme j'aime l'appeler, puisque je fais vraiment la différence entre l'Asie du Sud-Est et l'Asie du Nord, qui est constituée de deux pays, donc le Japon et la Corée du Sud. Et donc, de quoi voudrais-tu que je te parle en Corée du Sud ? Puisqu'il y a beaucoup de choses que j'ai eu l'occasion de voir.
Le truc simple que je voudrais, parce que on a un timing à respecter, hein, on a encore beaucoup de dates à faire, et puis là, le chrono, il tourne. T'es allé donc en Corée du Sud pour le boulot, j'ai envie de dire, pour tes études. Donc déjà, c'est le signe que le pays est hyper ouvert, ce qui est complètement paradoxal par rapport à son voisin du Nord. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on sent dans le quotidien cette dichotomie entre le Sud et le Nord ? Est-ce que dans la culture, dans les rapports qu'ont les gens avec toi, il y a ce côté, cette espèce d'ombre qui plane de la Corée de Kim Jong-un et tout le tralala, quoi.
Alors, on ne la sent pas tant que ça, malgré le fait que donc il y a un service militaire de 2 ans obligatoire. Mais je ne suis pas vraiment d'accord.
C'est comme en Israël ?
C'est-à-dire ?
En Israël, en fait, c'est même pas un service militaire, c'est un service très actif où tu es soldat pendant 2 ans, 3 ans, je sais plus. Et voilà, c'est grosso modo l'armée active d'Israël, c'est tous ceux qui font leur service à ce moment-là.
D'accord.
Plus éventuellement quelques militaires de carrière. Corrigez-moi si je dis des conneries aussi, hein, mais grosso modo, c'est ça les bails.
D'accord. Non, il y a des militaires de carrière et je ne sais pas. Franchement, je n'ai pas pu me renseigner plus que ça sur l'état de l'armée coréenne. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont une peur de l'étranger, pour la majorité. Mmh. Alors ça, c'est bien sûr divulgué via la presse. Mais donc, pour vous donner un ordre d'idée, je vais juste vous raconter une histoire. C'était à l'époque où Ebola se développait donc dans le monde. Et donc, ce virus mortel qui se développait était arrivé en Corée. Et les médias et le gouvernement avaient plus ou moins dit « Oui, ce sont les étrangers qui apportent Ebola et qui les amènent donc en Corée du Sud. » Et donc, certains bars et certaines boîtes de nuit, même certains magasins, sont devenus interdits aux internationaux.
Alors que tu as une hygiène irréprochable, c'est vraiment terrible de te reprocher ça. Mais c'est marrant parce que, tu vois, ce que tu nous dépeins, j'ai presque envie de dire, c'est des arriérés qui croient des légendes urbaines et tout. Mais est-ce que nous, des fois, on n'a pas aussi ce genre de truc ? Je pense qu'on n'arrive pas à se décrocher de notre point de vue et de se dire que des fois, nous aussi, on a des trucs à la con. Parce que, je vais citer un exemple, alors qui n'a rien à voir et en même temps, tu vas comprendre le lien que je fais. Il y a eu une rumeur à une époque comme quoi la ministre de la Culture, donc c'était Valo Belkacem à l'époque, voulait que les enfants apprennent l'arabe en petite section.
Oui.
Et que t'avais des mecs qui avaient monté ça en épingle, comme quoi on n'est plus en France et machin, on va nous imposer l'arabe et blablabla, et qu'on parlera même plus français, etc. Alors qu'en fait, ce qu'elle avait juste proposé, c'est que ça soit enseigné pour les enfants d'origine étrangère et que ça leur permettait d'avoir une connexion avec leurs racines, que ça favorisait aussi le fait que les familles acceptent de les envoyer à l'école parce qu'il y avait ce truc qui respectait leur culture et que c'était pas obligatoire pour tout le monde et que c'était en dehors des heures de cours normales et patati patata.
Alors, ici, dans le cas français, on reste sur des choses qui restent au niveau de la parole. Techniquement, en Corée du Sud, on a eu des pancartes avec écrit « Les internationaux sont interdits dans ce bar. »
Oui, mais ça, c'est la réaction. Mmh. Mais pareil, en France, tu as eu des pétitions, tu as eu des trucs écrits disant « Nous ne voulons pas que nos enfants apprennent l'arabe et tout. » Moi, je place ça au même niveau, à savoir que c'est des gens qui ont surréagi à une information qui était pas fiable, qui était à la con, qui a été emberlificoté, ce que tu veux. Et c'est ça que je veux dire, c'est que on est, nous, on a réagi à la con sur ce genre de truc, de la même, enfin nous, pas moi, mais ça m'est peut-être déjà arrivé de réagir à la con sur une information. Et ouais, après la haine de l'autre, c'est facile. En fait, ma conclusion, c'était ça. C'est que c'est très facile de dire c'est les Arabes, c'est les machins, c'est les trucs, c'est les étrangers, c'est les blancs, et que là, finalement, on retrouve un truc qui nous pend assez souvent au nez. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas aussi radical que ce que tu peux décrire, et que un mec qui mettrait une affiche les étudiants qui apprennent l'arabe dehors. Enfin, mon exemple n'était pas forcément transposable, mais on serait peut-être moins ouvertement comme ça, parce qu'il y a l'inverse, on a le pendant inverse, on a des gens qui vont monter au créneau pour défendre quand il y a ce genre de méprise.
C'est ça, alors que bon, on va dire que ça a été un mouvement qui a été...
Il n'y a pas de contrepartie.
Il n'y a pas de contrepartie. D'accord. En fait, il faut savoir qu'il y a très peu de... Il n'y a pas de grève quasiment en Corée du Sud.
Ah, quel beau pays.
Et la seule grève que j'ai connue, ça a été une grève massive des Coréens. Et d'ailleurs, si je m'étais fait attraper là-bas, j'aurais dû finir en prison.
Ça, tu le mérites.
Puisque les étrangers n'ont pas le droit de participer aux grèves, mais c'était contre la présidente donc de Corée du Sud.
Ah, mais c'est pas une grève, alors c'est une manifestation.
C'était une manifestation, mais qui a duré extrêmement longtemps.
Non, parce qu'une grève, c'est quand t'arrêtes de travailler.
Oui, non, c'était pas une grève, c'était une manifestation.
Ah, mais voilà, mais tu nous désinformes. Voilà. Vous voyez, chers auditeurs, heureusement que je suis là pour rétablir la vérité, hein, le fact-checking, parce que sinon cet individu vous aurait vraiment manipulé avec ses propos diffamants sur un gouvernement respectable. Oh purée, en plus il fait des blagues de merde, ça se voit qu'il est tard. Hein. Donc ouais, t'as manifesté... Et alors, est-ce que tu savais reprendre les slogans? Parce que tu parles pas coréen.
Oh, je sais dire bonjour, au revoir et je veux de l'alcool, mais...
Ah, bonjour, au revoir, je veux de l'alcool.
Si tu veux une très belle référence...
Vas-y.
Pendant cette manifestation, il y a eu le chant des partisans en français. Dans la manifestation.
Ça, je sais que chez les Asiatiques, et alors, il me semble que c'est au Japon, sais-tu quel est le chant de guerre des grévistes?
Si c'est le chant des partisans, non.
C'est la Marseillaise.
La Marseillaise.
Et il faut savoir que les grévistes japonais, en fait, ne font pas grève comme nous, c'est pas qu'ils arrêtent de travailler, c'est juste qu'ils portent un brassard noir. Mais attention, c'est le déshonneur sur l'employeur qui laisserait ses employés avoir ce brassard-là, et c'est le malaise, parce que tu sais que tout est très codifié, très machin, et voilà, c'est un geste d'un affront inqualifiable, alors que nous, franchement, les patrons, ils s'en battraient la race. Genre, ouais, tu bosses, tu mets le brassard. Ouais, vas-y, mets le brassard, vas-y. Mais tu bosses, hein. Ok, c'est bon, vas-y. Voilà, moi, je vais au golf.
Bah ouais, c'est...
Alors, la Corée, donc, c'est un pays qui est hyper moderne. Moi, ça me donne des fois l'impression d'un pays à mi-chemin Asie, Occident, États-Unis.
C'est exactement ça, puisqu'en fait, il y a deux niveaux de génération en fait en Corée actuellement. Donc,
c'est comme dans Pokémon.
Voilà, il y a deux générations, la X et la Y.
D'accord.
La génération X, elle, qui en gros dit « Oui, on veut s'européaniser et s'ouvrir vers les pays occidentaux pour reprendre leur culture. On y arrive très bien déjà.
Ouais. »
Et puis la génération Y qui dit « Oui, mais il faut garder nos valeurs et rester dans ce temps-là. »
Alors, les traditionnalistes, c'est les plus jeunes ou c'est les plus vieux?
Les traditionnalistes, ce sont les plus vieux.
Ok, c'est logique.
Voilà.
Non, parce que tu disais X, Y, parce que tu sais qu'en France, les générations X et les générations Y, c'est le contraire.
Oui, mais en maths, c'est deux variables et on s'en fout.
Oh là là, mais tu vas arrêter de... Hein, innocent, va. Donc, les jeunes, j'imagine, veulent s'ouvrir, d'où la K-pop, d'où les dramas coréens.
Oui, en effet. Et d'ailleurs, je n'ai pas entendu tant de K-pop que ça en Corée.
Limite, t'es déçu quand tu dis ça.
Bah ouais, je suis déçu parce que je m'attendais à en entendre beaucoup, beaucoup plus. Et en fait, c'est quelque chose qui s'exporte beaucoup.
Mais qui n'est pas très local.
Mais qui n'est pas local. C'est-à-dire que j'ai entendu plus de K-pop dans des boîtes en Chine qu'en Corée.
Oh mon Dieu, c'est tellement maléfique.
C'est magique. Mais en fait, oui, c'est une culture qui s'exporte et c'est une culture de l'image. Mmh. Parce qu'on ne le souligne peut-être pas encore assez, mais le pays de la Corée du Sud, c'est quand même le pays le plus développé en termes de chirurgie esthétique.
Ah ouais ?
70%, alors là je suis approximatif, hein, vraiment approximatif, mais je crois que 70% des femmes font de la chirurgie esthétique. Et même d'ailleurs, les boîtes, les maisons de disques de K-pop
remboursent 50% de l'opération en chirurgie esthétique à leur
idole. Alors, je ne sais pas si c'est des Coréens, donc je vais mettre des gros guillemets à ce que je dis, mais j'ai vu tourner sur Twitter il y a quelques jours une info qui m'a vraiment foutu le seum complet. C'est un groupe, donc je vais dire K-pop, mais peut-être que ce n'est pas le cas, donc à corriger, mais ça reste aussi glauque, qui, à l'occasion d'un single, s'est fait retaper de pied en cap, 100% pris en charge par la maison de prod. Et donc, genre, c'est pas une meuf qui veut se mettre plus jolie parce que elle veut avoir plus de succès en tant que chanteuse et tout. Non, c'est vraiment le producteur qui a fait: bon, les filles, pour votre prochain single, on vous fait la chirurgie à gogo et on fait le thème de la chanson là-dessus. Et c'est hallucinant parce que du coup, bah, les nanas, elles en parlent et c'est genre, ouais, c'est super, on fait un truc tout ensemble. Alors au début, quand la production elle nous en a parlé, bon, on a hésité un peu, puis finalement on a dit, ouais, allez, c'est cool. Mais enfin, c'est ouf, quoi, parce que...
Ça m'étonnerait pas que ce soit en Corée, puisque...
C'est pour ça que...
Information à confirmer, mais il faut savoir que les maisons de disques ont quasiment tout pouvoir sur leurs idoles.
Oui, parce que c'est comme au Japon.
Il y a une concurrence tellement forte pour devenir une idole, faut passer par le stade de trainee.
Training.
Donc pendant
ils n'ont pas traîné.
On se met d'accord, qui peut durer 7 à 8 ans, voire même plus.
8 ans
hein. 8 ans pour s'entraîner.
Ah, mais c'est vrai qu'ils les prennent super jeunes.
Ils les prennent super jeunes. Hein. On peut commencer à l'être à 8 ans, on peut commencer à être une trainee d'une maison de disques, et lorsqu'on a atteint la maturité, donc de 16-17 ans, et ben on.
C'est formidable. À 16 ans, voilà, tu vois la maturité.
C'est terrible, hein, mais ouais, et puis on les place, on place la meilleure dans le nouveau groupe, et puis on lui paye la chirurgie esthétique. Mais oui.
Et là, donc, ouais, pour en finir sur l'histoire, le truc aussi qui m'avait pas mal choqué, c'est que, et c'était un cri d'alarme qui était poussé par des associations, où à cause de cet abus de chirurgie ou autre, alors que ce soit les chanteuses, mais indirectement le public de ces groupes-là, avait une espèce d'autoracisme sur le fait de... En fait, ils s'occidentalisaient. Alors, c'est comme, par exemple, il y a beaucoup de gens qui reprochaient à Beyoncé de se teindre les cheveux, enfin, de se lisser les cheveux et de les colorer. Et de, entre guillemets, se blanchir, quoi. Je sais pas comment on pourrait le dire autrement. Et t'as un peu le même délire où les meufs, par exemple, elles se font débrider les yeux. C'est comme ça qu'on dit, donc, débrider une japonaise.
Ou un scooter de la poste.
Voilà, c'était la blague nulle. Mais, enfin, moi, j'étais vraiment affligé de me rendre compte que il y a des gens qui en sont au point de se dire que ce qui fait leur particularité, en tant qu'individu, ils veulent le gommer pour se rapprocher d'un modèle qui n'est pas un modèle, qui est juste un standard imposé par c'est Kiki, c'est Nounou les plus forts. Alors que, ouais, voilà, c'est vraiment se fondre dans le moule en s'oubliant soi-même. Et donc, tu confirmes que, ouais, chirurgie à gogo.
Chirurgie à gogo. Et d'ailleurs, la chirurgie la plus pratiquée, c'est bien entendu le débridage des yeux, en effet.
Qui, à mon avis, doit être aussi lié au fait que c'est pas très compliqué.
Oui, ça doit être de l'ordre du 80-85% des femmes qui font ça.
Qui sont débridées. Ouais. Ouais, c'est genre une intervention, ça dure, c'est en ambulatoire, c'est une demi-heure maxi, même pas. Parce qu'en fait, ils font une incision, je sais plus comment ils procèdent, mais.
Je suis pas un expert en chirurgie plastique pour.
Mais il paraît que c'est vraiment le truc, limite, tu peux le faire chez toi avec un peu de matos, quoi. Je te conseille pas.
Ouais, je pourrais essayer. Je retourne en Corée du Sud.
Tu vas te faire débrider là-bas.
Ouais, parfait. Voilà, donc c'était pour vous raconter un petit peu la Corée du Sud. J'aurais beaucoup d'autres choses à vous raconter, mais le temps avance et il faut qu'on avance.
Ouais, le temps imparti, il faut que tu ailles... voilà, tu quittes... Donc on a quitté le Cambodge, on a fait la Corée, on arrive en Chine.
Voilà, alors juste avant d'arriver en Chine, je veux vous recommander une chaîne YouTube qui s'appelle Togen, T-O-G-E-N.
On mettra le lien.
Voilà, on mettra le lien. C'est une chaîne qui parle exclusivement de la Corée, de tout ce qui se passe en Corée. et des différents événements qu'il y a pu y avoir, comme la démission de la présidente ou bien la situation des chanteuses de K-pop. Et je vous la conseille si vous voulez vraiment vous renseigner plus sur ce pays. Parce que lui, il a eu l'occasion de vivre en Corée. Et donc,
c'est une chaîne française ?
C'est une chaîne française, totalement française.
Il faut le préciser.
Voilà. Donc, allez voir sa chaîne, pour le coup. Je la conseille, je la suis et je la recommande.
Ok.
Direction la Chine.
Donc tu es arrivé à pied par la Chine ?
Absolument.
Il fallait la placer celle-là.
Voilà, j'ai pris mon sac à dos et je me suis mis à nager depuis la Corée jusqu'en Chine. Alors que pas du tout en fait, puisque je suis en train de me dire que j'étais parti du Vietnam pour aller en Chine.
C'est pas grave. Donc Vietnam, Chine, dans quel coin de Chine t'es arrivé ?
Alors je suis arrivé à Beijing, donc Pékin. Voilà, et ensuite j'ai dû reprendre un avion.
Et est-ce que tu as vu les équipes de M6 de Pékin Express, non ?
Non, absolument pas.
La vieille référence de merde.
Ouais, c'est une vieille référence, mais tout le monde m'a fait la blague, donc c'est pour ça que ça me fait un peu rire quand même.
Bon, ça va, je suis ringard, mais comme les autres. Donc
j'ai pris un avion pour aller à Pékin, et ensuite j'ai dû faire un changement qui a duré 12 heures, donc pour aller à Shanghai.
Ah, c'est un bon changement.
Ils en ont profité également pour perdre mes valises.
Ah oui, alors c'est là où tu nous avais communiqué que tu étais paumé à Pékin, sans valise, sans rien.
Non, j'étais à Shanghai et en fait, ils avaient oublié de charger mes valises dans l'avion.
C'est magnifique.
Et attends, si tu veux une autre blague, bon, c'est lorsque je suis allé en Mongolie, donc j'ai repris à l'aéroport de Pékin. Mm-hmm. Donc j'arrive à Oulan-Bator et je trouve pas mes bagages. Donc je vais voir les informations, etc. Je me renseigne, je me dis oui, ils sont où mes bagages ? Je commence à crier un petit peu, ça commence à m'énerver parce que personne ne le sait.
Oui.
Et là, je reçois donc. Je reprends le numéro du gars, je lui dis, il me dit appelez-moi dans 24 heures. Donc, très bien, j'y vais, je vais à mon hôtel, j'ai pas de bagages, bon tant pis, je commence à avoir l'habitude. De toute façon, je me suis dit, bon, au pire, je prends des affaires sur moi et comme ça, je suis un peu protégé. Mmh. Voilà. Il m'appelle 24 heures plus tard. Ouais, bonjour, monsieur Fournier, on a retrouvé vos bagages, ils sont au Kazakhstan.
Et bagages qui avaient pris de l'avance.
Très bien. Vous me les envoyez quand à Oulan-Bator ? Bon, dans 24 heures. Bien.
Bon, 24 heures, bien.
Quand il fait moins 36.
Oh là là, mais toi, tes petits bras. Alors là, vraiment, le monsieur, ça joue les aventuriers, ça a peur dès qu'il fait un peu frais, quoi.
Non, c'est faux. En vrai, j'avais pris suffisamment de vêtements sur moi pour ne pas avoir froid. Je savais très bien qu'il allait faire moins 23, moins 36.
Bon, bah voilà.
Voilà.
Alors, donc, t'es...
On retourne en Chine.
On retourne en Chine.
Donc en Chine, donc je suis arrivé à Shanghai. Donc Shanghai, qu'est-ce que je peux raconter sur cette ville ?
Parce que tu as vu les flics.
Ah oh, putain, cette référence.
Tu vois, mais moi je suis un vrai mec de référence. Voilà. Hein.
Alors oui, j'ai vu les flics de Shanghai.
Ils ne font pas des arts martiaux comme ça.
Pas des arts martiaux.
Je suis hyper déçu. Ouais, la suite.
Voilà, les stéréotypes, ça tombe. Et donc Shanghai, en fait, bah, c'est une ville qui est... C'est New York.
D'accord.
C'est complètement New York. En gros, il faut vraiment que vous vous imaginiez des rues avec des grandes boutiques riches, quartiers Dior.
Alors, dans ce cas-là, tu parles de Manhattan. Parce que va dans le Queens, c'est pas la même.
C'est pas la même, ouais. On va dire c'est le Manhattan chinois.
C'est friqué.
Bah, c'est surfriqué. Il y a des boutiques gigantesques, Porsche, Cartier, il y a tout ce qu'il faut. Puis vous avez le Boone.
Le Boone.
Le Boone, bah, c'est au Vietnam. C'était une blague de merde.
Oui, bah excuse-moi, il faut que j'intervienne de temps en temps parce que sinon je n'existe pas dans ce podcast.
Donc le Bund, qui est donc l'endroit en fait très connu de Shanghai où tu peux observer donc l'intégralité des grands buildings, vraiment comme sur une vue sur Manhattan.
C'est la Sky View, quoi.
C'est la Sky View, voilà. C'est la belle vue de Shanghai. J'ai pas fait tant de choses que ça à Shanghai, à vrai dire. Puisqu'en fait,
c'était combien de temps ?
J'y suis resté 12 jours.
Oh merde,
je suis resté 12 jours et en fait j'ai rejoint un pote qui est français qui était à l'université où j'étudiais, mm-hmm. qui avait rencontré deux équatoriennes.
Ça commence comme une mauvaise blague. Ouais,
ça commence comme une mauvaise blague et en fait on a passé 9 jours en boîte.
Super, ah ouais effectivement, donc Shanghai que dalle quoi.
Voilà, Shanghai que dalle, mais en fait il faut se dire que les boîtes en Chine sont gratuites.
Oui, c'est ce que tu m'avais raconté, alors voilà. Elles sont gratuites.
Alors je vais mettre les conditions. En fait... Je vais essayer de vous résumer un petit peu la situation. Donc, lorsque vous allez en boîte de nuit, alors ça va faire un peu épisode boîte de nuit ça, mais lorsque vous y allez, en fait, vous pouvez soit prendre une place normale, soit prendre une table. Bon, généralement, ce sont les Chinois qui prennent des tables. Et le prix des tables est absolument excessif, ça peut dépasser la dizaine de milliers d'euros. Mais les Chinois qui sont sur ces tables restent sur leur table et boivent de l'alcool, mais ne dansent pas. Et donc, les boîtes, pour pallier à ce problème, ont engagé des managers chargés de
rameuter.
De rameuter, donc, depuis les hôtels et depuis donc, les auberges de jeunesse, les internationaux, qui sont gentiment conviés, avec le nom du manager, à entrer en boîte gratuitement et à avoir de l'alcool gratuit. Et quand je parle d'alcool, je parle de vodka, de whisky et de champagne.
Donc en fait, les mecs, ils vous mettent bien pour que vous mettiez l'ambiance, parce que les Chinois, ils sont pas foutus de le faire.
Voilà. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, à un moment, on s'éclatait tellement sur la piste de la boîte, on mettait tellement l'ambiance, qu'on avait un manager qui passait en dessous de nous, en dessous de la piste, et qui nous ramenait des mojitos. Voilà. Ou des bières, ou plein d'alcool, ou pour qu'on continue à s'enjailler et à s'éclater.
Donc
voilà.
En fait, si t'es festif à Shanghai, tu vis gratos la nuit, quoi.
Tu vis complètement gratos la nuit. C'est cool. Il faut savoir que vu que les managers ont des liens avec plusieurs boîtes de nuit, tu changes de boîte toutes les deux heures.
Ah, tu peux te faire un circuit, quoi.
Mais tu te fais un circuit, en fait. Tu suis le manager. Et en fait, tu peux choisir tes ambiances de boîte en fonction des managers que tu choisis. Non, c'est absolument génial.
Ah, ça a l'air très très cool.
Ah, c'est très très
drôle. Faudra que tu me donnes les adresses, putain, je vais essayer.
Y a pas de souci, hein. Je te donnerai l'adresse des équatoriennes. Enfin, c'est vraiment marrant.
D'accord.
D'ailleurs, je vais les voir en Équateur normalement, d'ailleurs, en novembre.
Ah oui, alors parce que monsieur va refaire encore un voyage. Mais bon, ça sera un autre podcast parce que là, on est déjà en train d'exploser notre timing. Une dernière petite anecdote sur Shanghai avant qu'on fasse encore un petit cut pour le run final après.
Oui, un petit conseil sur Shanghai. Si jamais vous arrivez tard le soir, ne prenez pas les taxis. Parce que les taxis sont dirigés par une organisation pas très légale et ils vous font payer 50 euros la course.
Alors, moi je vais te faire un vrai scoop. Et là, sache que cette organisation dont tu parles... Bah en fait, elle s'est étendue jusqu'à Paris, à mon avis, parce que les tarifs, c'est pareil. Hein. Tu prends un taxi à Paname, tu veux aller du centre de Paris jusqu'à ici, chez moi. Donc moi, je suis à côté de Roissy, hein, sans trop lever le voile sur le mystère. Eh ben, 50 balles, tu les fais tranquille. Hein. Et encore, le mec, il t'a fait un prix. Hein. C'est vraiment des escrocs malgaches.
Voilà, alors qu'en fait, bah, je suis revenu donc du centre-ville de Shanghai à l'aéroport et ça m'a coûté 3 euros.
Ah oui!
Ah oui!
Ah, c'est quand même pas le même tarif, hein!
Non, parce qu'ils ont un truc qui s'appelle le maglev, qui est un train magnétique, qui fait donc le chemin que parcourt le taxi en 10 minutes.
Mais le maglev, c'est pas au Japon, ça?
Non. C'est à Shanghai.
Alors là, tu me.
Alors, il y a peut-être des maglevs au Japon, j'ai pas eu l'occasion
de le voir. C'est une technologie qui a été développée là-bas, c'est
pour ça que je te dis ça. Mais il y a des maglevs en Chine, à Shanghai. D'accord. En tout cas.
C'est peut-être les Japonais qui l'auront vendu.
Possible. On fait un jump.
Alors on fait un interlude, hein.
Ah ok.
Petite interlude.
Alors c'est l'interlude TGV, comme ça vous prenez le TGV et à la fin de cette interlude on arrive à Pékin.
D'accord. Bon alors on vous laisse arriver à Pékin, on vous rattrape là-bas. Donc pour le dernier run, hein, parce qu'après on finira ce parcours. Donc on vous laisse quelques instants et on revient pour le dernier segment de ce voyage avec Yann.